C'est pas vrai, ça recommence.
Tu nous as quittés trop tôt, toi qui étais un grand homme, un ami,
je peux sortir,
un frère, toi, Duncan MacLeod, du clan des MacLeod. Tu avais tourné le dos à ton Écosse natale pour pas courir le monde.
Je suis immortel en fait.
Et nous sommes nombreux à avoir eu la chance de goûter à ta gentillesse.
Je suis pas mort.
Nous allons te regretter pour longtemps encore. Adieu,
s'il vous plaît.
Duncan MacLeod, du clan des MacLeod.
Bon, bah je suis encore bon pour creuser, moi.
Bonjour et bienvenue à bord d'Hélène et les garçons. Bonjour Vic et Florian.
Bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour Thomas. Vic.
Bonjour Florian.
Comment ils vont?
Bon, ils vont très bien. J'ai envie de serrer des paluches et de dire bonjour Thomas, bonjour Vig, bonjour, bonjour les auditeurs.
Et oui, parce qu'on est toujours, nous on est toujours confinés, parce que vous auditeurs, vous êtes peut-être déconfinés, mais nous on vit dans le turfu, on est encore confinés, quoi. dans le CEPA plutôt. Mais
on est reconfinés.
On n'est pas vraiment confinés, en fait on est à distance. Mais pourquoi on est à distance? Ben, parce que c'est la vie, quoi, tout simplement. Vig.
Même nous on sait pas.
Oui, même nous, on sait pas, on est à distance. Bon, laissez-nous tranquille, arrêtez avec vos questions de nous harceler comme ça. Vic, tu es en direct du ranch?
Eh ben, exactement, en direct du ranch, entre le potager, le verger et l'enclos à chevaux.
Et alors, finalement, comment ça se passe la vie en Normandie, la vie sauvage?
Eh bien, ça se passe très bien, à base de coupe de pommier, à base de basilic. Alors, les limaces aiment fortement le basilic, pour information.
Information cruciale.
Voilà, je suis dans la recherche un petit peu Google de savoir comment on chasse les limaces du potager. Pour information, la solution, c'est d'une petite sous-tasse avec de la bière dedans. Voilà, c'est mon conseil de l'introduction.
Merci. Toujours la petite rubrique jardinage de Vic, très importante.
Exactement. La vie orange, quoi.
La phrase « les limaces aiment fortement le basilic », c'est un défi avec un pote que tu devais placer ou non?
Ouais, mais c'est dans un épisode du futur, tu me demanderas de faire ça, tu le sais pas encore, et du coup je l'ai placé directement.
Oh là là, j'ai déjà mal à la tête. Autre ambiance, Florian, comment ça se passe la vie dans le 9-3?
Bah, je suis toujours le triton de Saint-Ouen, tu vois. Moi, je profite de ma baignoire comme point d'eau et bon, j'ai un petit bout de terrasse quand même pour sortir, voir le soleil, profiter de l'air frais, tout ça, quoi.
Est-ce que t'as des limaces dans ta baignoire?
Étonnamment. J'ai des limaces sur mon petit bout de terrasse aussi. Et je ne savais pas pour la petite soucoupe de bière. Et en même temps, la bière, généralement, elle ne fait pas long feu chez moi. Donc, je ne suis pas certain d'avoir ça pour tuer les limaces. mais en tout cas, je prends bien note et je me resservirai de cette astuce. Merci.
C'est fulgurant. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Elles fondent sur la bière, elles boivent la bière, elles meurent direct. Enfin, plus de limaces.
Elles
prennent la bière.
Ouais. Ah, c'est incroyable. Elles sont alcooliques, en fait.
Exactement.
C'est super. J'adore la perspective que donne ce podcast de la vie, c'est vraiment superbe. Les gens viennent écouter un épisode de science-fiction avec des trucs de l'espace et tout, et ils entendent que les sangsues, là où je ne sais quel animal, boivent de la bière et après s'en vont, quoi.
C'est oui, mais rappelle-toi qu'on voulait transformer on voulait passer de la science-fiction au bien-être et au bon petit conseil. C'est un début.
On devient tranquillement un podcast survivaliste, néo-rural, on devient
carrément.
Ça, quoi.
Heureusement que je suis encore là pour vivre à la capitale et avoir peur de sortir et quand il y a une mouche au-dessus de moi, je me mets à quatre pattes, quoi.
Et d'ailleurs, comment se passe la vie à la capitale?
Eh ben, écoutez, niveau limace, c'est ok. On est bien pour l'instant, parce que en même temps, il y a très très peu de basilic, très très peu.
Les rats sont
moins présents qu'avant, parce que je pense
confinés.
Qu'ils avaient plus à bouffer. Non, ils avaient plus à bouffer, ils étaient pas bien.
Ah.
Ils étaient tout en galère, les gars. Et les gars, les rats, quoi. Mais rats sûrs, quoi. Et ils sont partis, quoi.
Bon.
Mais sinon, à part ça, la vie est belle, hein, vous savez. Hein, c'est le prix du mètre carré n'a cessé d'augmenter. Voilà, quoi.
Ah, c'est beau, la capitale.
Mais après le petit point immobilier, je voulais vous parler du thème, parce que c'est pas le tout de parler de tout ça, mais on est là pour se raconter des histoires, hein, c'est le concept du podcast. Thème immortalité, qui nous a été donné par Cyril. Merci Cyril, faites un bisou à Cyril.
Bisous Cyril.
Bisous Cyril.
Voilà. Il est sympa Cyril en plus. Est-ce que ça vous a inspiré, Vic, ça t'a inspiré pour ta chronique?
Tout à fait. Immortalité, c'était pas mal comme thème. Merci Cyril. Moi, j'ai du coup, Florian t'en parlait, moi j'ai fait une chronique un peu techno-rurale que j'ai rédigée suite à des observations qui peut-être, une fois qu'elles seront révélées, changeront légèrement votre vision du monde.
Waouh, tu nous as bien teasé là.
C'est ouais, beau, je l'avais wow. préparé. Je l'avais préparé, j'avoue.
Ah, zizi bâton. Hein. Bah pour une fois que tu vois, quand tu prépares, c'est bien, Vic. Tu devrais plus ouais. souvent. On n'arrête ouais. pas de te le dire avec ta mère.
Merci.
Florian.
Moi, je ne l'ai pas préparé, comme d'habitude. Moi, je vais vous parler dans ce podcast, dans ma chronique de thème de l'immortalité. Et surtout, je vais vous parler d'une rumeur qui perdure depuis un bon petit bout de temps.
Une rumeur, et tu ne veux pas nous dire laquelle? Juste
bah
un
non,
mystère.
Bah non, justement.
C'est les seringues pleines de sida dans les cinémas. C'est ça.
C'est ça. Immortalité, seringue de sida, très bien, parfait, pourquoi pas.
Tout est cohérent.
Et toi, Thomas?
Ah, merci. Enfin, je dois laisser des silences pour qu'on me pose la question.
Ouais,
super.
Il y a eu un petit blanc, ouais.
Oh là là. Alors moi, puisque vous me demandez, moi j'ai écrit une histoire qui va s'appeler donc Forever Elon et qui va raconter la vie d'Elon Musk devenu immortel grâce au transhumanisme et il va vivre dans une terre vidée de sa population.
Ah. En plus, cette circonstance, il a raté son lancement d'hier à cause de la météo.
Ouais, tout à fait.
Mais bon, peut-être qu'à l'heure, enfin, sans doute qu'à l'heure où sortira cet épisode, ils seront déjà loin dans l'espace ou ailleurs.
Probablement. Écoutez, vous nous envoyez un message du futur, vous nous le dites, on se tient au courant.
T'imagines, on dit ça, le podcast, il sort, et en fait, le décollage, ça a été un échec, la fusée a explosé, et ça fait deux morts dans la stratosphère.
Bah, c'est horrible. Possible. Ouais,
ce serait horrible. Et putain, on n'a pas de pif. Hein. Franchement, c'est pas clair. Bon, les gars.
Et en même temps, c'est. Enfin, je veux dire, même s'ils explosent, ça reste horrible, quoi qu'on en dise, quoi. Enfin, je veux dire.
Oui, bah globalement, c'est terrible. De toute façon, la mort d'une personne est toujours horrible, ok.
Ça dépend qui.
Non, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur.
Changeons de sujet, peut-être.
Je vais vous parler de deux thèmes, parce qu'on vient de se parler du thème immortalité, pardon. Chers auditeurs, vous savez que vous pouvez nous envoyer des thèmes. On va écrire des histoires à ce propos pour vous faire voyager. Vous pouvez nous envoyer un mot, plusieurs mots, une phrase. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Moi, je rêve un peu de folie et de thèmes improbables pour la saison 3, pour l'année prochaine, enfin après l'été. Faites-vous plaisir. Vraiment, si vous pensez que... Mettez-nous en danger et soyez dingue, quoi.
Enfin, mais d'ailleurs, tu m'y fais penser, on se cantonne à des mots ou à un groupe de mots, etc. Peut-être envoyez-nous des images, tu vois, des images thèmes.
Oui, c'est compliqué.
C'est pas mal pour un podcast.
On écrit des mots par rapport à cette image, tu vois, mais peut-être que ça peut nous inspirer des images.
Alors, le thème du jour est une photo en noir et blanc.
C'est pas évident, en effet. Mais en même temps, moi je prends tous les...
Non, par contre, peut-être qu'ils peuvent nous... Peut-être qu'on pourrait se faire envoyer des thèmes audio. Les auditeurs doivent enregistrer un truc, nous fredonner une chanson, nous dire un truc. Enfin, tu vois, un thème qu'on pourrait diffuser
oui,
vraiment. Et le thème du jour est, et là on diffuse le truc, ça pourrait être pas mal.
Oui, ou en tout cas un truc. En fait, il faudrait pas une thème dans la langue française. Il faudrait une thème dans un langage autre. Par exemple, des notes de musique. Ou tu vois, c'est assez malin. Ou même une adresse. Tu as une adresse. Thème 77 rue de la République. Voilà.
Ouais, bon. Tout ça pour dire, soyez un petit peu créatifs pour la saison 3.
Oui. Et faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir. Faites plaisir aux gens que vous aimez. tout ça dans les limites de ce qu'autorise le Code civil, évidemment.
Les gestes barrières.
Gestes barrières, évidemment.
Mais ça veut dire que la saison 2 est terminée?
Ah oui, ça veut dire que la saison 2 est terminée. Enfin, est-ce que la saison 2 est terminée ou pas?
Bon, on sait pas.
On sait pas. Bon, ok. On n'est pas sûr que ce soit le dernier épisode. Écoutez, dans 3 semaines, si on n'est pas de retour, c'est que c'était le dernier. Si on est de retour, c'est que c'était l'avant-dernier. On va pas en faire tout un plat. Voilà.
Non, dans tous les cas, c'est imminent.
C'est imminent. C'est et en plus de ça, on parle de dernier, mais sans vous spoiler, on peut dire qu'on prépare des trucs pour cet été. Si tout va bien, parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne.
Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on tease sur un projet qu'on sort, on ne sait pas.
Ça rate, mais oui, parce qu'on rate tout, nous. Et non, mais moi j'y crois, je pense qu'on va sortir un truc très cool cet été. Et si ça sort pas cet été, et ben ça sortira peut-être une autre fois. Et dans tous les cas, on reviendra en septembre avec des surprises et des cadeaux, notamment. Ça y est, on a des marque-pages, des trucs comme ça. On va vraiment arriver avec le livre. Moi j'y crois, le livre il va arriver enfin. Voilà, j'ai tout dit, maintenant on est obligé de le faire. Est-ce et aussi, Florian va apprendre à parler russe pendant l'été, il vous le promet.
Hein? Super. Hein? Est-ce que tu es en train de faire la liste du Père Noël en fait là? Tu es en train de faire toute la liste des projets qu'on a ratés et tu
en fait il y a des étoiles filantes qui passent au-dessus de moi, je fais des vœux. C'est ça qui est en train de se passer. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, je voulais vous dire qu'on allait finir l'épisode avec un club culture. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire.
Ah, ça faisait longtemps? Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps.
On a des recos à se faire, ça va être sympa. Enfin, pas que des recos jardinage, évidemment, vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on attaque avec la superbe chronique de Florian?
Ah non, mais mis à part que tu viens de pourrir ma reco jardinage, merci.
Non. Ah, je l'ai pas pourri. Je te permets pas.
Non, ma future reco, parce que je voulais dire, ah, moi, ma reco, c'était vraiment...
Alors, pour faire partir les puces. Très bien. Vivement le hors-série jardinage. Hein. Je pense qu'on va faire ça aussi. Hein. Parce qu'on a plusieurs idées de hors-série. Le jardinage, on pourra le faire. Ouais. Les recos, tu vois, tier list des recos jardinage de Vic. Une fois tous les deux mois, on fait ça. Je pense qu'on cartonne. Hein. Franchement, attention, 2 heures de perdu, on arrive. Bon, on commence ou pas là? Parce qu'on traîne. Hein. On traîne très, très
fort. On peut commencer, moi ça me va.
Et bon, c'est parti.
Allons-y.
Théophile Nadir ou la vie éternelle.
Le soleil brille. Les oiseaux chantent. Depuis la fenêtre, on peut voir les enfants jouer dans la rue. C'est un beau dimanche qui annonce le début du printemps alors que la vie reprend ses droits. Au même instant, elle est en train de quitter le corps de Théophile Nadir. Théo est un vieil homme de plus de 80 ans. Des printemps, il en a déjà connu pas mal. Mais celui-ci a un goût d'injustice à ses yeux. Il n'a jamais bu, jamais fumé. Il a toujours fait beaucoup de sport et surveillé son alimentation. Pourtant, son corps est un champ de bataille où une guerre invisible mais sans pitié a lieu depuis plusieurs années. L'ennemi attaque sans distinction toutes les cellules qui se trouvent sur son passage. Il a d'abord établi son campement dans les poumons, avant de remonter petit à petit vers la trachée, ne laissant derrière lui qu'un paysage microscopique dévasté. Désormais, Théophile ne ressent plus que de la douleur. La moindre respiration le brûle et lui donne l'impression de s'étouffer. Dans la bataille, le vieil homme a aussi perdu sa voix, si douce et chaleureuse d'après son entourage. Mais s'il pouvait, il crierait à plein poumon contre la vie. Il insulterait ce monde de merde et tous ces cons qui vivent en bas, ceux qui vont finir comme lui à force de respirer les fumées de ceux qui vivent au-dessus. Avec un peu de chance, certains pourront peut-être se payer des poumons artificiels dernière génération, mais la plupart crèveront la bouche ouverte. Alors il crie, encore et encore, mais sa chambre d'hôpital reste désespérément silencieuse. Son seul regret est de ne pas avoir passé plus de temps avec son fils. Il aurait certainement dû le prévenir plus tôt, mais il ne voulait pas l'inquiéter. Son travail l'a amené à l'autre bout du monde, loin de son père et de ses racines. Mais dès qu'il a appris la mauvaise nouvelle, quelques heures auparavant, il a sauté dans un avion, direction Paris. Il devrait bientôt être là, mais le temps presse. Théophile Nadir sent la vie qui le quitte petit à petit. Il s'accroche à ce qui lui reste de souffle avant d'expirer le dernier. Pour tromper le destin, il attrape alors son téléphone afin de regarder des vidéos à la con, à base de chats qui vomissent ou de pingouins qui dansent, à moins que ce soit l'inverse. Il n'a plus toute sa tête ces derniers temps. Entre deux scènes supposément hilarantes, une pub lui saute à la gueule. Le genre de publicité qui te propose d'élargir ton pénis pour moins de 50 crédits, ou encore de t'installer des clairvoyants venus du marché gris chinois. Pourtant, celle-là n'est pas comme les autres. Elle n'a rien à vendre, pas de prix en gros et en jaune, ni même de bouton qui t'ordonne de cliquer là, ici, tout de suite. Pas de logo, pas de nom. Rien. Seule une mer bleu turquoise jette ses vagues nonchalamment sur une plage de sable fin. En arrière-plan, une musique classique au tempo lent souligne le vent qui passe dans les feuilles des palmiers. Après quelques secondes, un texte blanc, simple, sans fioritures, apparaît au milieu de l'écran dans un fondu. Vie éternelle. D'ordinaire, Théophile aurait passé la pub, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, il attend, patiemment, devant ce paysage idyllique, que quelque chose se passe. Mais après plusieurs minutes, toujours la même plage de sable fin. Il n'a jamais eu autant envie d'en savoir plus à propos d'une vidéo commerciale. Sont forts ces comptes marketeux.
Bonjour, je suis Aurore d'Eternal Life. Que puis-je faire pour vous aider ?
Une voix guirette qui tranche avec le morbide de la situation résonne dans la tête du vieil homme mourant. Apeuré, il parcourt la pièce des yeux, de gauche à droite, pour trouver sa providence. Mais il n'y a personne d'autre que lui dans cette chambre. Seul un miroir, accroché en face de son lit, lui renvoie son regard.
Monsieur Nadir, vous m'entendez ?
Ça y est, tu perds la boule, mon vieux Théo.
Ah, monsieur Nadir, j'ai bien cru que je m'étais trompée, encore une fois. Bon, que puis-je faire pour vous aider ?
Ne sachant pas vraiment ni où ni qui regarder, Théophile se met à parler au miroir.
Vous m'entendez ? Qui êtes-vous ?
Je suis Aurore, je travaille chez Eternal Life.
Eternal Life ?
Oui, Eternal Life, la solution clé en main pour une vie éternelle. Vous n'avez pas vu nos vidéos ?
La vidéo ? La plage avec le palmier ? C'est vous ?
Vous pouvez me tutoyer. Mais oui, c'est nous. La solution clé en main...
Vous faites comment pour me parler ? Ou même m'entendre ? J'ai perdu ma voix.
Très bien, calmez-vous. On reprend depuis le début, Théophile. Je m'appelle Aurore. Je suis actuellement à quelques milliards de kilomètres. Je communique avec vous grâce à vos ondes cérébrales. C'est tout nouveau. Je ne sais pas vraiment comment ça marche moi non plus, mais c'est vraiment super pratique.
Mais je vous ai rien demandé, moi.
Vous vouliez plus d'informations ?
Oui, mais...
Bah ça s'est affiché sur mon écran, un petit point rouge là. Et depuis la loi de protection des informations de juillet 68, on a l'autorisation de prendre contact avec vous immédiatement par n'importe quel moyen.
Un silence gênant s'installe pendant quelques secondes qui semble durer des heures. Théophile profite de cette pause pour questionner sérieusement sa santé mentale. Après un instant, il reprend.
Admettons que cela m'intéresse. Comment ça fonctionne ? Cryogénisation, clonage, organes artificiels ? Parce que je préfère vous le dire tout de suite, hein, je n'ai pas du tout les moyens de me payer...
Ah non, je vous arrête. Je vous parle de LA vie éternelle. Tous les autres ne font que tromper la mort, mais je vous rassure, elle vient toujours chercher son dû. Chez Eternal Life, on vous propose l'immortalité, la vraie, l'originale. Eternal Life utilise toutes les dernières technologies en termes de synchronisation cérébrale. Nous avons la capacité de scanner les ondes gamma de n'importe quel être humain, et ce jusqu'à plusieurs milliers d'années-lumière de distance. Chaque détail, chaque émotion, toutes ces choses qui font de vous un être unique sont ensuite scannées puis envoyées vers notre base de données sur une planète aux confins de l'univers. Rassurez-vous, c'est parfaitement indolore. Après nettoyage, nous procédons enfin à la réintégration de votre esprit dans un corps semi-organique tout neuf. Sa conception brevetée lui permet de vivre éternellement sans subir la moindre dégradation liée au temps, à la dégénérescence cellulaire ou aux maladies. J'ai bien expliqué, c'était bien ? Non, parce que je suis nouvelle.
C'était très bien.
Merci beaucoup.
Et cette planète, elle est comment ?
Ah justement, j'allais y venir. Elle est franchement pas mal. J'y suis allée plusieurs fois pour dépanner des collègues. On m'a dit que ça ressemblait beaucoup à la Terre, mais avant que les humains ne la colonisent. Et pour cause, des ingénieurs d'Eternal Life ont terraformé cette planète d'arrache-pied pour lui donner son aspect et offrir à nos clients des paysages riches et variés. Vous pouvez y croiser des sommets enneigés majestueux, des plages de sable fin paradisiaques ou encore des prairies verdoyantes. Grâce à son thermostat atmosphérique, il y règne une température idéale en permanence. Mais ce n'est pas tout, car vous pouvez à chaque instant vivre l'expérience des quatre saisons. Il suffit pour cela que l'on vous transfère dans une région hivernale, par exemple. Et vous ne serez jamais perdu, car nous avons pris soin de dupliquer chaque paysage, chaque rocher, chaque brin d'herbe dans toutes les saisons. Et si vous avez peur de vous ennuyer, n'ayez crainte. Notre bibliothèque digitale comporte toutes les œuvres jamais produites sur Terre, et plus encore. Notre connexion sans fil nous permet aussi de capter tous les flux terrestres afin de mettre à jour en direct notre catalogue de contenu.
Eh bien, vous me décrivez le paradis ?
Ça dépend.
Comment ça ? Ça dépend de quoi ?
Bah de comment vous voulez l'appeler ? Vous voyez, elle n'a pas de nom, cette planète, et on ne lui en a pas donné volontairement. Comme ça, chacun peut l'appeler comme il veut. Paradis, Nirvana, Jardin d'Éden, Valhalla, Urdaloka, Olympe, c'est comme vous voulez.
Vous voulez dire que je ne serai pas seul ?
Bah non, heureusement. Ce serait triste, non ?
J'avais pas vu ça sous cet angle. Et il y a beaucoup de gens ?
Beaucoup, je sais pas. Ça aussi, ça dépend. Mais oui, il y a pas mal de gens. Des hommes, des femmes, des non-genrés, des gros, des minces, des beaux, des bruns, des blonds, des riches, des pauvres.
Aurore ?
Des religieux, des pas religieux, des patrons, des ouvriers, des artisans, des artistes, des philosophes.
Aurore !
Thomas Kasparov, Victor Smith, Florian Pelletier, Mohamed Wang, Kurt Cobain.
Attendez, quoi ? Kurt Cobain ?
Ah, vous connaissez ? Charmant jeune homme et très bon musicien. Il anime les fêtes de quartier, les mariages, les bar mitzvahs.
Ah oui, on le connaît bien sur Terre, ouais. C'est dingue, ils avaient raison depuis le début.
Vous dites ?
Non, rien. Et il y a d'autres célébrités ?
Vous savez, je m'y connais pas trop en personnalité terrienne. Mais il y a un certain Elvis, John Fitzgerald, James Dean, Adolphe le boulanger. Ah, et Andy aussi. Je l'adore, il est trop drôle. Mais je vous rassure, hein, il y a largement assez de place pour tout le monde ici. Vous allez pas vous marcher sur les pieds. Notre planète est 5 fois plus grosse que la planète Terre. Bon, alors ça vous tente ?
Je suis désolé, ma petite, mais je crois bien que je vous ai fait perdre votre temps. J'ai pas un rond.
Ah, mais c'est pas un problème. Notre prix de départ est extrêmement attractif. D'ailleurs, il est même possible que vous n'ayez rien à payer. Souvent, les mutuelles terrestres prennent en charge le transfert, mais peu de gens le savent. Alors attendez, laissez-moi regarder. Théophile Nadir, Nadir. Ah voilà ! Théophile Nadir, 83 ans, Paris. Oui, tout à fait. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour vous, le transfert est pris en charge. Bon, bien sûr, vous n'aurez que les options de base. Apparence physique identique, pavillon 3 pièces en province, monospace classique, mais c'est déjà ça. Je vous proposerai bien nos packs de personnalisation, mais vu votre solde de crédit. Pourquoi vous avez tout dépensé en soins intensifs aussi ? Vous avez tout dilapidé. C'est dingue ça, vous contactez trop tard, je devrais le dire à la direction.
Le vieil homme n'écoute déjà plus la jeune téléopératrice. Il est perdu dans ses pensées. L'offre est alléchante. La promesse de l'immortalité dans des paysages paradisiaques, c'est pas rien. Il pourrait enfin se détendre et faire autre chose de ses 10 doigts que de trimer inlassablement pour tenter de survivre. Mais alors qu'il réfléchit à la proposition, la réalité le rattrape.
Mon fils !
Quoi, votre fils ?
Mais je dois dire au revoir à mon fils !
Ah mais un problème, monsieur Nadir. C'est maintenant ou jamais, vous voyez ? J'ai droit qu'à un contact par être humain. C'est écrit dans le règlement, noir sur blanc. Je pourrais perdre mon travail si ça se savait.
Le vieil homme est face à un dilemme. Quitter la Terre, son corps original, sa vie, sans dire au revoir à son fils est impensable. Rien ne peut lui faire oublier ses moments passés avec lui, les balades dans le parc, ses premiers pas. Tout n'a pas toujours été rose. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais c'est le passé désormais. Après tout, C'est le seul être qu'il n'ait jamais autant aimé. Pourtant, il n'a aucune certitude de le revoir une dernière fois avant de mourir. Théophile sent ses forces s'épuiser. Il s'accroche au fil invisible qui sépare la vie de la mort. À chaque instant, il peut basculer de l'autre côté et il aurait tout perdu.
Monsieur Nadir ?
Après plusieurs minutes de réflexion, Théophile Nadir prend sa décision.
Je suis vraiment désolé. Votre père est décédé il y a quelques heures. On n'a rien pu faire. Il y avait cette lettre sur la table de nuit. J'imagine qu'elle vous est adressée.
Kevin, mon fils, ne pleure pas. Je suis parti vers un monde meilleur. PS, prends une bonne mutuelle. Signé, papa.
Tu reprendras bien une petite bière ?
Allez, une dernière.
Adolphe, ils sont prêts les burgers ? Ça fait des plombes qu'on attend.
Enfin une happy ending, Florian ?
Bah, je crois que j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps, non ? Mais oui, j'avais, en tout cas, j'avais envie d'un peu de fraîcheur, de tu vois comme un truc à la plage, on mais sent bien.
C'est doux comme du miel, c'est tu nous as mis un sucre d'orge dans la gorge. C'est non vraiment parce que on est quand même pas souvent trop dans le happy ending. Toi, tu pètes la terre. Bon, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, mais quand même.
Non, la fois c'était Vic.
Oui, ça, on dénonce pas. Oui, enfin coupable, oui. Si tant est qu'on est coupable de détruire la Terre. Et tiens, un pavé dans la mare de toi, l'humanité.
Putain, t'es chaud.
Ouais, il est chaud, le gars. C'était formidable, bravo, Florian. Pauvre Théo, mais en même temps, cool pour Théo, quoi. Oui, parce que je vois écrit Théo devant moi, parce que j'ai noté le nom du protagoniste pour pas l'oublier, parce que c'est un peu long.
En parlant de nom de protagoniste, Théophile Nadir, enfin je parle en tant que docteur S, c'est quoi le nom, est-ce qu'il est bien ? Je valide complètement, j'aime beaucoup.
Ah, merci beaucoup. Je pourrais faire une petite reco d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'en fait, j'ai utilisé le générateur de nom, Lorraine Ipsum, de notre cher ami sur Twitter, Thomas, tu vas peut-être pouvoir nous en parler parce que j'ai oublié son nom.
Oui, alors c'est pas la. Il y a une auditrice qui nous a tweeté un générateur de noms. Mais c'est pas elle qui l'a créé, hein, je crois pas. Hein.
Non, je sais pas, mais dans tous les cas, elle nous a partagé ça et c'est quand même super bien, très pratique. C'est un générateur de noms 100% français et qui prend les noms en fonction des statistiques, c'est-à-dire que tu peux choisir la période donnée, c'est-à-dire avant 1900, 1980, etc.
Ah, je savais pas que tu pouvais aller si loin. Extrêmement pratique.
C'est vraiment très bien, quoi.
Et ce qui est rigolo, c'est que ça mélange les origines, quoi. Tu peux t'appeler Mouloud Fernandez, quoi.
Exactement. Ou Théophile Nadir.
Ah, c'est bien. Je l'ai pas encore essayé. J'ai toujours rêvé de m'appeler Jean Kader. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est peut-être pas elle qui l'a créé, mais aujourd'hui, Thomas, est-ce que le partage ne ferait pas un petit peu partie de la création à l'ère d'Internet?
Vous avez 3 heures.
Ouais, vous avez 3 heures.
Je crois pas que c'était elle, mais en effet, on peut la remercier. Merci, Laetitia.
Laetitia 2.0, il me semble, sur Twitter.
Tout à fait, très bien. Quoi d'autre ? T'as mis les clairvoyants dans ta chronique, je suis content.
T'as mis plein de références.
J'ai mis plein de petites références un peu partout. Parce que je veux pas vous le cacher, dans ma tête, et c'est peut-être le cas, on sait pas, etc. Dans ma tête, c'était le dernier épisode, du coup, je voulais faire vraiment. Je voulais vous faire plaisir, je voulais vous mettre bien.
Le dernier épisode pour toujours, quoi.
Non, pas forcément.
J'ai noté effectivement les clairvoyants, j'ai noté Adolphe, le fils du boulanger ou le boulanger, je sais plus bien. Il y a Mohamed Wang aussi, t'as fait une orgie d'autoréférence à nous-mêmes, c'est bien.
Ah, il y a nous-mêmes aussi, il y a Thomas, Vic et Florian. Oui. Il y a Florian Pelletier, Thomas Kasparov et Vic, je sais pas quoi, Vic Smith. Je crois, Victor Smith.
J'aime bien l'idée de l'orgie d'auto-référence, j'aime bien l'idée d'une orgie de soi-même, tu vois, une partouze de masturbation, quoi. J'aime beaucoup. C'est exactement ce qui vient de se passer, quoi.
Ah, mais très bien. C'est ça.
Moi, j'avais une question.
Oui.
Est-ce que la vie éternelle, c'est pas un peu Animal Crossing ? Je suis désolé d'en parler à chaque épisode depuis 2 mois, mais.
En vrai. T'es tombé dedans, Thomas. Il faut que t'en sortes et bon, il faut qu'on en parle. On voulait t'en parler avec Vic.
Ça correspond à tout. Même tu peux même choisir le nom de ton paradis et tout. Enfin, attendez, pas à moi, Florian.
Non. C'est pas exactement ça que j'avais en tête quand j'ai écrit cette chronique. Moi, j'avais plus en tête notamment cette vieille rumeur comme quoi Adolf Hitler, James Dean, Kurt Cobain étaient coincés étaient à Cuba, par exemple, tu vois. Ils sont pas morts, en fait. Ils sont tous à Cuba en train de kiffer, de faire la fête sur la plage. Et ben non, en fait, ils sont sur une planète à l'autre bout de la Terre.
Parce que toi,
et on sait pas comment elle s'appelle.
T'as James Dean dans ton île à Animal Crossing?
Tout à fait, et j'ai Adolphe aussi.
Incroyable, incroyable. Très intéressant. Mais en tout cas, ça fait en effet rêver. Et enfin, c'est con, mais c'est un exercice qu'on a déjà tous, comme tu dis, un peu fait. Mais c'était particulièrement bien fait. Et en effet, j'aime bien l'idée de se dire, putain, il y a Kurt Cobain qui fait des bar mitzvahs. Enfin, c'est ouf, quoi. Tu vas papoter un peu avec Jean-Paul Sartre, tu vois. Enfin, c'est
exactement. C'est un peu le truc que j'avais en tête et j'aimais bien cette idée-là. En fait, j'avais aussi un petit peu en tête la série The Good Place, tu vois.
Oui.
Pour le décor, en tout cas, j'avais ça en tête. Et donc, j'ai imaginé le décor de The Good Place, mais avec Kurt Cobain, James Dean, John Fitzgerald Kennedy, tout ça, quoi.
Mais il y a un truc très cool à faire sur ça. En effet, je veux dire, on sous-estime beaucoup le potentiel des morts, quand même. Et on a tellement, je veux dire, ils sont nombreux à être passés de l'autre côté de la barrière, et c'est quand même ouf ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, s'ils tentaient qu'il y a quelque chose. C'est pas toi, Vic, qui m'avait parlé d'un bouquin où tous les morts étaient ensemble ou un truc comme ça? Tu m'en avais parlé aux Utopias de l'année dernière.
Ah, bien sûr, c'est même une saga de Philippe José Farmer qui s'appelle Le Monde du Fleuve, du coup, reco avant les reco, mais Le Monde du Fleuve, c'est effectivement toutes les humains et dans l'espace, donc tout autour de la planète et dans le temps, depuis que l'humain existe, qui se retrouvent effectivement, qui renaissent le long d'un grand fleuve qui est quasi infini, quoi. Et ils se demandent un peu pourquoi ils sont là, mais du coup t'as Adolf Hitler, oui, non, c'est pas Adolf Hitler, mais il y a un nazi, je sais plus qui c'est, Goebbels, je crois. Non, je crois que c'est Goebbels qui se retrouve à côté d'un homme de Néandertal, enfin d'un homme préhistorique, et à côté de machin, et à côté, enfin ils sont tous mêlés comme ça, c'est vachement bien.
Bravo.
Très bonne saga. Moi, j'ai des questions aussi. Enfin, j'ai des questions et des remarques.
Oui. On t'écoute.
Déjà, première remarque, Eternal Life, donc l'entreprise que tu as créée. Quand tu as dit ça, en fait, je me suis rappelé un peu qu'on, dans toutes nos chroniques depuis deux saisons maintenant, c'est l'épisode combien là on est au combien
38.
Là voilà,
38.
Donc, si tu fais 38 fois 3 chroniques, ça fait beaucoup de chroniques. On a créé, à travers toutes ces chroniques, plein d'entreprises, plein d'organisations. Et je me dis que ça serait bien un jour qu'on se motive. Ça va être compliqué vu qu'on a du mal à se motiver, mais pour faire un schéma de toutes les entreprises, organisations, peuples qu'on a créées. Parce que là, tu vois, Eternal Life, ok, c'est l'entreprise qui te donne. Enfin, voilà, ça c'était une petite remarque, mais je trouve ça intéressant
un wiki
ça.
Même déjà un wiki qui reprend Noras et tout, mais ça c'est, ça serait vraiment le travail d'auditeur un peu sympa, hein.
Wink wink.
Si nos auditeurs voulaient un peu se bouger plutôt que nous envoyer des commentaires 5 étoiles, ce qui est sympa, hein, mais bon. J'ai clashé nos auditeurs.
Non, t'as pas clashé.
Big style.
T'as pas clashé, t'as essayé de motiver. C'est déjà pas mal.
Tu motives les troupes.
Ensuite, Aurore, c'est bien une humaine. Hein.
Oui, c'est une humaine. Ouais. C'est une humaine et à la fois peut-être pas, c'est peut-être juste un concept. Et j'ai même inclus une certaine notion de folie, tu vois, dans la chronique, parce que au début, le mec, il sait pas vraiment s'il se parle à lui-même, tu vois. Donc on sait pas tout, tu vois.
D'accord.
On laisse la porte ouverte à toute interprétation.
Ok, en tout cas, je m'étais noté que si c'était une humaine, je pense que Eternal Life va pas tarder à peut-être installer des chatbots ou quelque chose de moins humain que elle. Et après, j'avais quelques questions. Première question, c'est quoi les ondes gamma d'un être humain?
Alors ça, j'aimerais bien savoir aussi.
Ok, deuxième question, c'est quoi un corps semi-organique?
Un corps semi-organique, c'est moitié robotique, moitié organique, tu vois, les muscles et comme le cœur, etc., sont, comment dire, poussent autour
d'un squelette, c'est
Robocop, c'est entre guillemets Robocop, c'est un peu aussi Wolverine, tu vois, c'est tout ce genre de personnes qui peuvent vivre extrêmement longtemps. Okay. Et au pire du pire, même si ça tombe en panne, etc., on peut faire pousser un autre truc par-dessus. Okay. Et du coup,
Stephen Hawking, ça compte ou pas?
Bof, bof. C'est lui, il a tout mis autour de lui, tu vois. Il n'a pas vraiment compris comment ça marchait.
Ok.
Troisième question. Le corps, du coup, ce corps semi-organique, il est laissé sur la planète, c'est ça?
Ouais.
D'accord, très bien. C'était juste pour être sûr d'avoir compris. Et enfin, dernière question. Comment il a écrit la lettre à son fils?
Ah bah, il peut écrire quand même, il peut bouger et tout, c'est juste qu'il a du mal à respirer, il en chie sa race, quoi.
D'accord. Bien parce que alors, Florian, il a hésité.
Non mais du coup, il aurait pu revoir son fils, du coup.
Bah, mais en fait, le truc, c'est qu'il savait qu'il allait mourir dans très peu de temps, tu vois, et son fils, il est arrivé quelques heures trop tard. En vrai, il serait arrivé trop tard dans tous les cas. C'est comme ça que je me suis défini. À la base, j'avais écrit une fin un peu larmoyante où il décide de pas aller sur la planète et de pas avoir de vie éternelle. Et je me suis dit, non mais en vrai, pas du tout.
Bah bien sûr qu'il y va.
En vrai, si on te propose ça,
il y va et son fils va certainement y aller aussi. Donc de toute façon, il sait qu'il va le retrouver, quoi. Tu vois.
Ah, c'est beau.
Voilà. Et puis
pour le dernier épisode,
quand c'est éternel, j'ai envie de te dire, le temps, il est tout à fait relatif. Donc que t'attendes ton fils encore 50 ans alors que t'es éternel, c'est peanut, on va dire.
Mais c'est bien. Pour le dernier épisode, t'as fait une fin, une happy end, et c'est tout à ton honneur.
Alors, je vous ai fait une happy end, oui.
On n'arrête pas de répéter que c'est le dernier épisode de Mission N'est Pas Sûr. On rappelle qu'on revient normalement très vite après. Hein. C'est pas le dernier pour toujours. On n'est pas en phase terminale.
J'avoue, ça fait un peu baroud d'honneur.
Mais oui, j'ai l'impression que c'est la fin. Attendez, gars, vous allez vous porter la guigne. Toucher du bois. Ah, tu vas.
Je déménage au ranch.
Oh putain, tu rejoins 2 heures de perdu. Ça y est, ils nous ont pris notre talent, les bâtards. Moi, j'ai une dernière remarque.
Oui.
Il joue bien le médecin, non?
Ah oui, c'est vrai. Et on en parle de celui aussi qui est sur la plage et qui sert des bières.
Contre les limaces.
Exactement.
Il n'y a pas de limaces au paradis.
J'avais complètement oublié que tu m'avais demandé de faire une voix. Je me suis auto-surpris. Mais en même temps, elles étaient plus difficiles, mes phrases. Je tiens à dire.
Tu t'auto beaucoup de choses en ce moment, toi.
Non, mais c'est vrai. Merci à mes acteurs. Merci à toi, Vic. Merci à Thomas. Et merci à ma bien-aimée qui a fait, au final, plus de 3/4 de la chronique, mine de rien.
Bien joué. C'est bien,
un peu fait avoir.
C'est bien de sous-traiter.
Ouais. C'est ça.
Et de faire quelques voix féminines aussi.
Et bah, vu que Vic va s'en aller rejoindre 2 heures de perdu, on prendra ta bien-aimée, on va la mettre à la place de Vic. Et on l'appellera Vic aussi. Marche, on l'appellera ça. Vic, comme ça les gens iront que du feu. Ça se passera bien.
Ça se verra pas.
Tranquille.
Bah écoutons ma dernière chronique alors.
Et bah, tu me fais la transition, mais quel amour. Superbe. Allez.
La mise à mort du merle noir.
J'imagine que la plupart d'entre vous vont me prendre pour un fou. Et après tout, ils auront probablement raison, selon leur point de vue. Toujours est-il qu'à l'heure où je rédige ces lignes, j'ai le sentiment d'avoir la charge de le faire. Ou plutôt, le devoir. Prévenir. Prévenir le plus de monde possible. Si vous tombez sur ce texte, il y a fort à parier que je ne sois plus là pour le commenter. Ou pour répondre à vos questions. Vous en aurez certainement beaucoup, et il faudra trouver les réponses vous-même. Pour vous aider, j'ai rassemblé avec ce texte plusieurs dizaines d'interviews d'experts, ainsi que de nombreuses observations autour du monde et de statistiques qui corroborent mes conclusions. Mais cela n'est qu'un pied à l'étrier de la grande révélation. Et ce sera à vous de hisser la voile du changement. J'ai simplement 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est d'observer vous-même ce que je m'apprête à vous décrire. Levez les yeux et observez-les. Restez discret. N'attirez pas leur attention. Soyez naturel et observez-les de loin. Notez tout ce que vous pouvez. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il soit. Sourcez vos recherches. Cherchez partout. Dans le ciel, dans les arbres, dans les villes, dans les campagnes, sur Internet, dans chaque conversation. Rassemblez toutes les informations que vous pourrez, aussi discrètement que vous le pourrez. Et consignez-les avec soin. Mon second conseil est le suivant. Diffusez le résultat de vos observations. Ne le faites pas trop tôt, mais faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Joignez-y ces quelques lignes. Parlez-en au plus de monde possible, tout en faisant le moins de bruit possible. Trouvez des personnes de confiance. Partagez, croisez vos informations. Agissez collectivement. Le monde doit savoir. Le monde doit savoir. Le vivant et la Terre doivent s'organiser. L'humanité et l'ensemble des intelligences doivent en tirer les leçons. Il est trop tard pour moi. J'ai observé trop tard, j'ai écrit trop tard, j'ai agi trop tard. Et l'important est ailleurs. Ce texte pourra peut-être poser la première pierre de l'édifice qui vous sauvera tous, au moins de celui qui vous donnera un peu de temps. Cela a débuté il y a 19 mois, en juillet 2034, précisément le jour au cours duquel je suis tombé sur un jeune merle noir agonisant sur le bas-côté d'une route départementale. Comme souvent le long de ces routes, l'imprudence d'un jeune oiseau avait croisé celle d'un conducteur distrait. Le merle avait été fauché en plein vol par un véhicule lancé à plus de 80 km/h, avec le reste d'un ver de terre encore coincé dans le fond de son bec. Ses ailes étaient tordues dans des angles qui ne laissaient présager aucun espoir. L'un de ses yeux pendait de sa petite orbite jusqu'à traîner dans la terre, rendue poussiéreuse par l'été sec et sans pluie qui venait de passer cette année-là. juste sous son œil amputé, un vieux papier de sneakers jeté là, ondulé à chaque fois qu'une nouvelle voiture passait près de nous, dans un sifflement discret mais brutal. Lorsque le papier se relevait, on pouvait lire la publicité qui l'ornait. C'était un code de promotion pour télécharger un jeu sur son téléphone. Et quel jeu ? Angry Birds. Les oiseaux en colère. Un oiseau agonisant sur quelques oiseaux en colère. Quelle ironie. Son lit de mort se constituait de congénères rageurs que les enfants du monde entier envoyaient valdinguer d'un swipe d'un bout à l'autre d'un écran. L'avènement du sarcasme technologique sans doute. Une nouvelle voiture passa. Et alors, je vis l'autre œil de l'oiseau, l'œil valide. Celui-ci semblait fixer le packaging du sneakers. Cela fut fugace, mais, en l'espace d'une seconde, j'eus l'impression, non, la certitude, que l'oiseau saisissait lui aussi l'amertume morbide de la situation. Je ne saurais pas le décrire avec tous les mots du dictionnaire à ma disposition, et la sensation me foudroya instantanément. La lumière dans cet œil, à ce moment très précis, n'était pas celle de l'habituelle intelligence animale que décrivent tous les spécialistes de l'éthologie. C'était autre chose. L'œil du merle n'était pas simplement l'œil d'un animal qui comprend que la mort va le prendre. C'était, je vous conjure de le croire, quelque chose de plus inconnu. Peut-être même, pensais-je alors, dans une fulgurance, de plus secret. Et le temps que ces pensées prirent pour me traverser était celui qu'il fallut à l'oiseau pour mourir de ses blessures. Je le ramassai et le recouvrai d'un petit tas de feuilles mortes, un peu plus à l'écart de la route, à l'orée du bois qu'il avait sans doute vu naître. Je repris la direction de chez moi, le cerveau effervescent. Avais-je déjà vu un oiseau mort ? Oui, bien sûr, ce jeune merle. Plusieurs autres même. Des pigeons, dans les mégalopoles européennes, rendus plus qu'à moitié mutilés par l'indifférence de ces cités connectées, de nombreux autres oiseaux sur le bord des routes, tués de plus en plus fréquemment par les voitures devenues de plus en plus silencieuses, et donc encore plus meurtrières avec la vie sauvage, quelques volatiles chassés dans les jardins par quelques chats ou chiens, et d'autres dans les assiettes des restaurants, tués par les chasseurs. Mais ma question manquait de précision. Je mis quelques jours à la reformuler. Avais-je déjà vu un oiseau mort naturellement ? Un oiseau mort de sa mort naturelle. Cela m'obséda plusieurs semaines. Pendant ces longues journées, subjectivement raccourcies par cette intense obsession, je fis tout mon possible pour trouver un oiseau mort naturellement. Sur des milliers de forums internet, sur des centaines de kilomètres de sentiers plus ou moins sauvages dans toutes les forêts plus ou moins proches de chez moi, partout, je cherchais quelque chose qui, jusqu'à avant ma rencontre avec le merle, m'aurait semblé à la fois simple et courante. Le corps d'un oiseau mort de vieillesse. Vous vous en doutez sans doute maintenant, mais ma conclusion, après d'incessantes recherches, fut la suivante. Personne n'a jamais pu observer d'oiseau ayant succombé à sa mort naturelle. C'est ma première affirmation. Cela semble idiot, mis par écrit ainsi, mais cela fait maintenant 19 mois que j'en deviens un peu plus certain chaque jour. Les oiseaux ne meurent pas. Vous allez me dire qu'ils ont été étudiés de long en large depuis des centaines d'années, que ce sont des animaux vertébrés qui descendent des dinosaures à plumes, pourvus d'ailes, que certains ont été domestiqués par l'homme, et d'autres observés par des ornithologues compétents qui auraient décelé cette extraordinaire découverte bien avant moi. J'ai cherché des réponses à toutes ces questions, ces remarques et ces objections, et elles m'ont toutes amené à la même conclusion. Les oiseaux ne meurent pas naturellement. Autrement dit, les oiseaux sont immortels, à condition qu'on ne les tue pas avec nos véhicules électriques, avec l'apathie de nos mégazones urbaines ou avec l'agilité avide de nos chasseurs. Sans voiture, sans coup de feu, sans maladie domestique, les oiseaux ne meurent pas. J'affirme donc, avec la plus grande conviction, que nos étourneaux, nos mésanges, nos corbeaux, nos geais, nos colibris, nos milans et autres corneilles ne sont pas mortels. Que sans circonstances de prédation, principalement humaine, il est tout à fait impossible de retrouver un jour à terre ce qui chaque jour foule les airs. Quand j'ai découvert cela, j'ai cherché à comprendre ce qui semble à première vue impossible. Un être vivant, totalement immortel. Même les méduses, Turritopsis nutriluca, ou leur cousine méditerranéenne, Turritopsis thorni, toutes deux capables de rajeunissement cellulaire, finissent par mourir, elles aussi. Cela a été observé il y a plus de 10 ans. Pas les oiseaux. Et si eux ne meurent pas, c'est qu'ils ne font pas partie du vivant. C'est qu'ils ne viennent pas de cet ancêtre commun à tout le cycle de la vie sur Terre. Et s'ils ne viennent pas de là d'où nous venons tous, depuis 4 milliards d'années, c'est bien qu'ils viennent de là d'où personne n'est jamais venu. Ailleurs. C'est ma seconde affirmation. Les oiseaux proviennent d'ailleurs. Bien sûr, de nombreux oiseaux naissent sur Terre chaque jour, et leurs ancêtres, ainsi qu'une multitude d'autres spécimens, arrivent continuellement d'ailleurs. L'image est presque ridicule quand on y pense. Les oiseaux volent non seulement autour de la Terre, mais ils volent également jusqu'à la Terre. Je n'ai pas encore étudié leurs origines possibles précises, mais encore une fois, les études, les interviews d'experts et les nombreuses statistiques que j'ai joints à ce texte corroborent toutes et sans exception l'ensemble de mes conclusions. J'en suis certain maintenant. Le merle noir, ainsi que tous ses congénères, n'est pas un animal comme un autre. Et bel et bien une intelligence supraterrienne. Et depuis mes premières certitudes, je me sens comme observé. Je crois qu'ils ont compris que quelqu'un a enfin observé ce que personne n'a su voir tout ce temps. Je crois aussi que cela ne leur semble pas acceptable. Je vous en conjure, reprenez mes recherches, complétez-les, allez plus loin. Je ne suis que la première pierre, et je manque encore de ciment. Je sais que parmi vous, certains trouveront les ressources pour aller plus loin et découvrir ce qui peut-être nous changera à jamais. Une troisième affirmation. Une origine. Et je vous en prie, et cela sera mon dernier conseil. Par-dessus tout, soyez discret.
Les oiseaux, les merles noirs sont des extraterrestres.
C'est ce qu'on se raconte. On aura c'est ce qu'on tout raconte. Entendu.
Non, c'est pas les merles noirs, c'est tous les oiseaux.
C'est tous les oiseaux. Alors, j'étais pas sûr, en effet. C'était ma première question. J'ai cru que c'était les merles noirs, puis tous les oiseaux. Donc les oiseaux sont des extraterrestres. Très bien.
Voilà. C'est tout à fait ça.
Moi, j'ai adoré cette phrase, notamment les oiseaux volent autour de la Terre, mais ils volent aussi jusqu'à la Terre.
Oui, c'est vrai.
Magnifique. Alors, c'est tellement. C'est vic as fuck.
Ah, c'est clair. Il y a de l'altitude en Normandie, non? Tu manquais d'oxygène quand tu l'as écrit ceci.
Non, mais. Chercher une idée, mais c'est vraiment parti d'une observation où je regardais, vous savez, ces nuées d'oiseaux qu'on a tous vues, là, qui se déplacent ensemble à plein d'oiseaux, par centaines.
Ouais.
Et en regardant cela, en regardant ces oiseaux, je me suis dit, c'est marrant. Mais on voit quand même peu de cadavres d'oiseaux. Où est-ce qu'ils vont, ils vont, tu vois. Et du coup, est partie de cette idée que j'ai depuis un petit moment, et finalement, un petit peu comme l'auteur du texte là, de la chronique, j'ai tendance à croire qu'il y a quand même un truc qu'on nous cache. Voilà. Je dis rien.
La théorie du complot.
J'aime beaucoup parce que en effet, tu deviens survivaliste vraiment jusque dans le complot. C'est ça qui est vraiment super, quoi. J'adore ce qu'on se raconte. Tu vois, tu parles des meutes d'oiseaux. Tu utilises le terme meute, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce que t'as dit.
Non. Surtout que j'ai développé aussi en parallèle de l'histoire que je vous racontais. Ça, c'était il y a un petit moment. Mais là, depuis que je suis au ranch, depuis le confinement. C'est vrai que j'ai repéré également des, enfin que je vis avec les oiseaux, que je partage mon petit déjeuner avec un petit couple de mésanges charbonnières juste à côté et de quelques mésanges à côté dans des nichoirs qu'on a construits. Et c'est vrai que j'ai développé passion oiseaux dernièrement.
Mais oui, mais depuis quand tu connais juste les marques des oiseaux, enfin les modèles.
Les marques. Les modèles. Déjà, c'est pas bon signe, quoi.
Je suis allé très loin. J'ai regardé des vidéos de YouTube sur YouTube où les gens mettaient des caméras en fait. Dans les nichoirs avec chaque jour les petits oisillons qui se développaient, etc. Enfin j'ai tout regardé, je commence à, c'est très intéressant d'ailleurs, donc depuis peu de temps.
Putain, t'as changé, Vic.
Mais moi faut que je te fasse parler avec mon beau-père est un féru d'oiseaux. C'est même un ornithologue,
on peut dire. Mon beau-père est une mésange.
Non, non, mais il adore ça. Il a des jumelles, il a des paraboles pour écouter. Tu vois, c'est, il kiffe les oiseaux. Vous pourriez parler des heures, je pense.
T'es sûr que c'est pas juste un voyeur entre nous, hein. Bon.
Bah, parle à ton beau-père de ma théorie, on verra ce qu'il en pense.
Non, mais c'est intéressant. Tu sais quoi, il y avait presque un côté Lovecraft. J'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de.
C'est
truc,
vrai, c'est vrai, dans la voix même.
Il y avait. Alors, dans la voix, tu t'es pitché la voix, là. Hein. Dis donc. Tu t'es pitché la voix.
Hein, mon cochon, tu t'es pitché la voix.
Légèrement pitché parce que, comme vous l'entendez peut-être, j'ai le nez bouché et du coup, ça s'entendait moins.
T'as un petit problème avec ta virilité, toi. Hein. Tu t'es mis de la testostérone, là, hein. bien compris. Hein. Bon, et moi, je voulais. Florent, tu veux peut-être parler un peu. Je monopolise la discussion.
Moi, j'ai pas beaucoup de questions. C'était très clair. C'était vic as fuck. J'ai eu mind blown parce qu'effectivement, en fait, ça me fait penser à ces pensées sous la douche ou bien c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est même les pensées de mecs qui sont défoncés, tu vois. Et ça en fait partie en vrai. Genre, dis donc, j'ai jamais vu d'oiseau mourir de mort naturelle. Est-ce que ça veut dire que les oiseaux sont immortels? C'est parfait.
C'est un sophisme.
Jusque-là, tout va bien.
Finalement, c'est un sophisme aussi. Hein,
c'est ça. Et à un moment donné, j'avais une autre question. À un moment donné, j'ai entendu comme un oiseau qui imitait R2-D2. Est-ce que tu as mis le son de R2-D2 dans ta bande son ou pas? Parce que vu qu'à la fin, tu as mis des sons de robot, je me dis, ah, mais peut-être que c'était vraiment un robot. Je suis pas sûr.
Mais quelle oreille. Mais en fait, il faut quand même se dire que le chant des oiseaux, comme j'en ai mis quelques-uns, là, c'est quand même vachement. C'est caractéristique. C'est fou. Enfin, c'est ces sons qui sont capables de produire les différentes espèces. Et ça m'a fait
passionné quoi.
Non mais enfin il faut se dire quand même que c'est étonnant comme son.
Oui tout à fait.
Et du coup je me suis dit au fur et à mesure que le mec développe sa théorie, au début les oiseaux ne meurent pas puis après ils viennent de l'espace, mais ça c'était plus un délire parce que ça me faisait marrer effectivement de voir des oiseaux qui volent jusqu'à la Terre. Je me suis dit de mixer les cris d'oiseaux avec des trucs comme ton homme semi-organique avec des choses plus semi-organiques, plus artificielles. Ça a laissé présager le doute sur ce qu'était vraiment un oiseau. Et donc voilà,
effectivement
il y a eu des bruitages de droïdes de Star Wars.
Super. Mais tu sais, est-ce que tu te rappelles, Thomas, je t'avais partagé une fois une vidéo d'un oiseau qui imite à la perfection le bruit des blasters de Star Wars.
Ah oui, tout à fait.
C'est génial.
C'était extrêmement impressionnant.
Tout à fait, on la postera sur le réseau. Ouais, il faut absolument qu'on partage ça au plus grand nombre.
C'est vrai.
Je veux ce lien.
Ouais, c'était assez incroyable. Ce qui me fait penser, vous savez-vous comment ils ont fait pour faire le son des pistolets laser dans Star Wars?
Alors oui, parce que tu me l'as dit, mais je vais laisser les auditeurs découvrir cette anecdote avec toi.
En tapant sur des câbles, eh oui. Dit comme ça, on dirait qu'on peut dire autre chose. Mais oui, donc, tu vas arrêter de taper sur des câbles. Et vraiment, ils tapaient sur des câbles, les mecs, quoi. Et ça faisait bruit. Enfin bon, bref, je le fais très mal, mais voilà. En post-prod, on pourra le mettre écouté. Et voilà, impressionnant.
C'est beau, non?
Peut-être que je vais pas le faire, on sait pas, on verra.
Mais souvent, les sound design de films comme ça, même dans Interstellar, tout le making-of, il en parle un peu, mais les mecs qui font les sons des films, c'est souvent des artisans qui font ça avec des trucs. Toujours étonnant.
Ah mais ça c'est passionnant. Tu vois les mecs dans généralement ils vivent dans un bordel pas possible. On dirait chez Michel Gondry x10 quoi. Et il y en a partout. Ils traînent des parpaings contre les murs et ils font des trucs. Alors ouais, si je prends de la racine et que je la frotte contre ma gencive, ça va faire le cri de la mouette. Tu vois, c'est des ouf. C'est passionnant.
Bah, tu fais non, bien mais... la racine qu'on frotte contre la gencive. Dis-moi.
Ouais, parce que non, mais ces mecs-là, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps justement sur les bruiteurs. Ils sont grave dans la merde ces derniers temps parce qu'ils ont du mal à trouver de nouvelles personnes à former.
Ah bah putain, mais pourtant c'est le métier de ouf quoi.
Ouais, mais pourtant il n'y en a pas beaucoup, tu vois, dans le monde. Et du coup, ils galèrent à trouver des apprentis.
Bah, on peut lancer un appel. C'est à ça aussi que ça sert, Aline et les garçons. Sauver les métiers de nos régions. Bruiteur.
C'est ça.
Celui qui veut devenir bruiteur en Lombardie, il n'y a qu'à y aller. Enfin, la Lombardie, c'est pas en France en l'occurrence, mais bon.
Mais bon, c'est pas grave.
Excusez-moi. Pardon. Je voulais vous parler d'une autre anecdote.
Anecdote.
Vous savez, je commence à plus parler correctement, ça commence. C'est toujours passé voilà. Florian est au courant, mais je vais le raconter un peu à Vic. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, Florian et moi traînions dans un bar lugubre, comme on le fait souvent. Et on a rencontré un jeune Allemand, parce que d'aucuns pourraient dire que je déteste les Allemands, mais non, j'ai des amis Allemands. Hein, notamment, enfin j'en ai un, quoi. J'en ai un, mais...
Christine Morano.
Mais il est, un vrai Allemand. Hein. Oui, il y a une Morano, d'accord. Super, ça y est, on dit que je suis raciste.
Non mais j'adorais. Non, un vrai Allemand, pas Nadine Morano.
Je crois que j'ai dit Christine en plus. C'est génial, super. Là, j'ai fait un mélange entre Boutin et Morano.
Aucune des deux n'est allemande, hein, mais même si elles sont sacrément.
Non, mais elles ont chacune un ami arabe.
Oui, c'est vrai. Et ben moi, j'ai un ami allemand. J'en ai peut-être même deux, trois, mais j'en ai un peu plus. Laissez-moi raconter mon anecdote. Et donc, ce garçon-là, il était avec un ami à lui, donc on connaît un peu moins, et dont le métier, et je vous promets que c'est vrai, était de chercher des chauves-souris mortes dans une région donnée. C'était son job, il était payé pour ça. Il marchait toute la journée pour essayer de trouver des cadavres de chauves-souris sur le sol, en sachant qu'il n'y en avait pas.
Il faut expliquer pourquoi.
Il n'y en avait pas. Et il le savait très bien qu'il n'y en avait pas, mais ils avaient besoin d'une preuve scientifique comme quoi il n'y en avait pas, en fait. Et donc il marchait pendant des mois comme un idiot pour chercher une chauve-souris qu'il ne trouverait jamais. Et pourquoi, en fait, oui, il a raison, c'est. Vas-y, Florent, explique.
Bah, en fait, ils sont en train de mener une étude justement sur les éoliennes et à quel point ça peut tuer les animaux et notamment les oiseaux. Et donc, effectivement, ce qu'il nous racontait, c'est que lui, il devait marcher dans un rayon de, je sais pas, je vais dire des bêtises en termes de nombre de mètres, mais on va dire 100 mètres autour de l'éolienne. Et il nous disait, le problème, c'est qu'on trouve jamais d'oiseaux parce que les oiseaux, quand ils se tapent les éoliennes, ils crèvent 10 km plus loin, tu vois. Donc, il trouvera jamais d'oiseaux. Les dés sont pipés, les études sont toutes pourries, le monde est merdique.
Indignez-vous. Par contre, c'était des oiseaux, je crois que c'était des chauves-souris.
Bah, c'est des chauves-souris, je crois, mais c'était toutes sortes d'oiseaux, mais effectivement, les chauves-souris
vole,
en particulier.
Tout ce qui vole,
quoi.
Bon, c'est un bon métier pour rien foutre.
Non, mais c'est
pour
ouf,
faire. Alors, moi, j'en ai pas trouvé aujourd'hui, j'ai bien cherché. Là,
mais c'est n'empêche que c'est son métier, quoi. Et on l'embrasse, hein. Bisous.
Mais par rapport à si jamais un jour il trouve un oiseau mort, voilà, c'est encore une fois un oiseau qui est mort parce qu'il s'est mangé une éolienne ou un immeuble, comme dans les films catastrophiques. C'est pas parce qu'il est mort de sa mort naturelle, voilà.
Ah non, mais
on quand même à le dire.
On contredit pas ta théorie, enfin ta théorie, on contredit pas les faits. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de problème, hein, on le sait, hein, tu sais. Tu sais, il y a d'autres youtubeurs comme toi qui vont dire des trucs comme ça très sérieusement, et vous êtes nombreux, hein. Oh putain, d'ailleurs on en a un, nous, hein. Enfin, vous n'êtes pas au courant parce que c'est plutôt moi qui gère le Twitter, mais il y a un mec qui nous a déjà envoyé 2-3 fois des vidéos d'OVNI et tout, il est trop chelou, hein. C'est lui qui il est youtubeur complotiste. Et il fait genre 10 vues par vidéo, je vous le montrerai, il fait genre 10 vues par vidéo, vraiment c'est tout petit, et puis il est trop chelou, tu sais, il se file un peu dans sa cave ou dans un placard, je sais pas trop où il a les yeux.
Non mais attends, c'est pas sympa de dire ça, ça se trouve il nous écoute.
Non,
Thomas.
Non, il nous écoute pas, je pense pas. Mais je pense qu'il il est chelou, on dit la vérité aux auditeurs. Les auditeurs qu'on aime bien, on leur dit. Ceux qu'on trouve chelou, on leur dit aussi, c'est tout. Mais, alors, mais la liste pas, des auditeurs chelous.
Je veux pas être rangé dans la catégorie des auditeurs chelous de 1 parce que déjà je nous écoute pas, c'est nul.
Oui.
Et surtout de 2 parce que moi, c'est pas un complot. Un complot, ça impliquerait une organisation quelconque, humaine ou quoi, ou une certaine intelligence, qui ferait quelque chose. Enfin, moi, c'est pas un complot, c'est juste des faits, encore une fois. Je ne suis pas un complotiste, je suis juste un observateur.
Il se braque.
C'est juste une provenance d'un animal.
Comme tous les complotistes. Mais t'as de la chance que je sois en orange, toi.
Très bien. Merci, Vicky. On a parlé tout sauf de ta chronique, mais voilà, quoi. C'est la
vie. Ça sert à ça aussi, les débats.
On passe à la chronique.
Elle n'implique aucun débat. Ouais.
Super. Passons tout de suite à la meilleure chronique. Forever Elon.
Elon Musk, vêtu d'un costume de pharaon cousu de fil d'or, dégustait des raviolis en boîte froide à même le sol graniteux. Il avait bien songé à les faire chauffer au soleil, mais sans se l'avouer, cela faisait bien longtemps qu'il n'accordait plus grande importance aux choses de la vie comme les saveurs, le plaisir ou la découverte. Elon se trouvait dans la chambre royale de la pyramide de Khéops, où il avait décidé de passer quelques semaines. De royal, cette pièce n'avait plus que le nom. C'est pourquoi Elon était arrivé dans sa suite, les bras chargés de matériel. Un matelas gonflable, une tablette numérique, une lampe de luminothérapie, une super batterie portative. Elon n'était pas venu seul. Il était accompagné de Ada, sa poupée sexuelle ultra réaliste, avec laquelle il avait fêté ses noces d'uranium au printemps dernier. Ada portait l'authentique costume de courtisane égyptienne du personnage Nefer, issu du film hollywoodien L'Égyptien, sorti en 1954. Cette parure affriolante mettait avantageusement en valeur ses formes généreuses que savait encore apprécier des yeux Elon. Mais le temps ayant fait son œuvre, les relations sexuelles dans leur couple se faisaient rares. Et le désir avait cédé place à une affection toute particulière qui unissait ces deux amoureux, l'un de chair et l'autre de silicone. Leur séjour touchait à sa fin. Non pas qu'une date limite avait été définie au préalable concernant ses vacances, mais Elon s'était lassé de la pyramide, des hiéroglyphes et de la chaleur accablante de Gizeh. Il était simplement d'avis qu'il était temps de changer d'air. Elon demanda à sa compagne « Où veux-tu aller maintenant, mon amour ?» Et Ada ne lui répondit pas, objet inanimé qu'elle était. « Excellente idée, mon amour !» s'écria Elon, qui feint l'excitation. « Moi aussi, j'ai très envie de manger des huîtres. »
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ah, la Bretagne, ça fait du bien d'y revenir. On y était passé il y a pas si longtemps, mais quand même, ça fait du bien d'y revenir. En plus, on a un temps superbe, on a de la chance. Tu veux une huître, mon amour ? Elon posa une huître dans la paume ouverte de Ada. Tu vois, Ada, les vrais gourmets ne s'y trompent pas. Ce sont les huîtres plates qu'ils préfèrent. Son goût délicat de noisette est caractéristique de la région. Et puis c'est excellent pour la santé, dit-il, sans même y croire. Elon portait maintenant une tenue complète d'ostréiculture en néoprène renforcé et un bonnet de laine rouge. Pour le folklore, avait-il signalé. À la faveur de la marée basse, il s'était rendu sur la plage pour y recueillir 2 douzaines d'huîtres. Elon préférait ses huîtres légèrement citronnées, mais il avait oublié de récupérer un citron en passant par l'Italie à bord de sa Tesla à turboréaction. Qu'à cela ne tienne, Elon avait décidé de faire contre mauvaise mémoire bon cœur en dégustant avec enthousiasme ses quelques huîtres sur le port de la houle. Autour d'eux, rien ou presque n'avait bougé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le monde était devenu un musée dédié au monde d'avant, dans lequel une poignée de privilégiés erraient et erreraient encore pour l'éternité. Bien sûr, l'état global du mobilier et des équipements s'était grandement dégradé, mais comme le disait Elon, cela apportait un charme supplémentaire à ce grand bac à sable, la patine qui lui manquait quand les rues étaient bondées et que les foyers étaient bruyants. Elon dégustait avec un plaisir primitif ses huîtres bretonnes. Plus exactement, il se régalait de son propre appétit. Ce genre de pulsion presque animale, comme celle qu'il avait ressentie ce matin en Égypte, lui procurait une grande joie. Elle incarnait à ses yeux un projet, au sens étymologique, c'est-à-dire une finalité à atteindre, aussi proche et anodine soit-elle, et capable de remplir cet abîme qu'avaient les immortels, comme Elon, au fond de leurs âmes. Lors de la fin des temps, il y a plus d'un siècle, quelques femmes et quelques hommes purent bénéficier d'une technologie capable de les absoudre de leur propre mort. L'humanité allait disparaître en quelques années, mais eux, les immortels, continueraient à parcourir la Terre et sauraient de sa population. Il y avait Elon Musk, sa femme de l'époque, la chanteuse Grimes, Sergey Brin, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Kanye West, Yoko Ono, Lady Gaga, Jack Ma et enfin Vladimir Poutine. C'étaient ces 11-là, les derniers représentants de l'humanité. Ils avaient la planète comme demeure et les 10 autres comme semblables. Très vite, leurs relations se détériorèrent et donnèrent lieu à ce qui aurait pu être la plus longue et la plus fascinante telenovela de l'histoire, faite de ruptures, de trahisons, de liaisons, de mensonges, de réconciliations, d'amour, de gloire et de beauté. Après la centaine de saisons qui s'étaient succédées dans ce spectacle tragicomique à l'audience nulle, la situation était la suivante. Grimes avait quitté Elon pour vivre l'idylle parfaite avec Sergey Brin. Oprah Winfrey s'était murée dans le studio historique de son show télévisé, et ce depuis plus de 30 ans. Jack Ma et Mark Zuckerberg étaient devenus les meilleurs amis du monde, littéralement. Lady Gaga et Yoko Ono vivaient en union libre. Vladimir Poutine et Kanye West s'étaient installés en colocation dans le palais du Louvre. Jeff Bezos avait entrepris d'écrire avec assiduité ses mémoires, qui seraient par définition sans fin. Et Elon, brouillé d'avec le reste de la population mondiale, luttait contre l'ennui dans les bras d'une poupée en silicone maraudée dans un entrepôt de la banlieue d'Osaka. Lutter contre l'ennui. L'ennui. Puisque c'est de ça, en fait, dont on parle lorsque l'on parle d'immortalité. L'ennui, donc, déchirait le cœur et le corps d'Elon de sa petite musique persistante qui lui revenait sans cesse. La douzaine d'huîtres englouties et sa fringale dissipée, plutôt que de la satisfaction, Elon ressentait de l'ennui. L'existence avait perdu sa saveur iodée pour retrouver un petit goût de cendre. Si Elon n'avait jamais porté la poésie dans son cœur, l'éternité menait à tout et il avait eu l'occasion de lire quelques classiques. Ce soir,
emmuré en lui-même dans un monde vaste de ses merveilles, ces quelques vers de Mallarmé lui revinrent. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Que faire maintenant? L'heure était avancée. Où passer la nuit? À Paris? Elon redoutait d'y croiser Kanye West. À Londres? Londres est ennuyante. L'inconnu? Quel inconnu! Les lieux inexplorés rappelaient inévitablement à Elon d'autres lieux, familiers à lui donner la nausée. Elon en Égypte, Elon au Pérou, Elon au Kilimandjaro, Elon à Stonehenge, Elon à Moscou, Elon à Shanghai, Elon à la montagne, Elon à la plage, Elon à la ferme, mais surtout Elon s'ennuyait. L'idée aussi effrayante qu'apaisante du suicide traversa son esprit un instant. Devenir immortel et puis mourir, comme dans ce vieux film français. Quelle belle idée. Mais peut-être était-il déjà trop mort pour sauter la vie. Au fond, il ne s'était jamais senti aussi peu vivant que depuis qu'il avait fait une croix sur la mort. Comme s'il avait touché le fond en pensant à sa propre disparition, Elon rebondit et se tourna vers Ada. Il lui offrit son plus beau sourire, le plus triste aussi. Et plutôt que de lui parler de la mort, il lui parla de la vie. Il lui dit « Je crois que j'ai envie de te faire des enfants, mon amour. » La harpe de la fuite du temps résonnait encore et encore, tandis que le teint doré de Ada s'effaçait au fil des années. Sa peau jaune-blanche était usée par endroits, comme un pantalon de velours peu usé. Ses ongles et ses yeux avaient fini par se décoller. Et sa chevelure brune, si magnifique autrefois, était désormais un entremêlement de toutes sortes de champignons et de moisissures. Si l'éternité est un laps de temps tout à fait raisonnable pour un immortel, elle ne l'est pas pour une poupée sexuelle japonaise. 100 ans s'étaient écoulés depuis ce dîner à Crancale. 100 ans au cours desquels Elon avait déployé son génie auréolé de folie pour atteindre son but. Se créer une descendance malgré l'absence d'ovaires et d'utérus chez sa partenaire. Engendrer la vie. Voilà quel avait été le dernier projet d'Elon, sa dernière pulsion primitive, son ultime douzaine d'huîtres. Aux côtés des restes de sa femme, Elon regardait sur son écran la sonde achever son voyage en traversant l'atmosphère martienne. Elle contenait des bactéries capables de résister à l'hostilité de la planète rouge. Ces êtres vivants, ces martiens, seront ses premiers habitants. Et Elon prendra soin d'eux comme de ses enfants. Ses enfants à lui et à Ada, bien sûr. Il les aidera à grandir, à comprendre le monde, à forger leur morale pour bâtir une civilisation juste et prospère. Pour cela, il devra quitter la Terre et rejoindre Mars en prophète interplanétaire envoyé de lui-même. Et si pendant son séjour, il ne ressent plus l'appel de ce minuscule point lumineux dans le ciel nocturne que sera devenu la Terre, Elon ne rentrera pas et deviendra Dieu vivant parmi sa création. Alors voilà. Est-ce donc cela que l'on fait quand on est immortel depuis trop longtemps, créer la vie ? Peut-être qu'à se regarder comme un dieu, on finit par vouloir le devenir pour de bon et faire naître quelque chose là où il n'y a rien, en extirpant des créatures hors de sa cuisse, de sa côte, ou plutôt de son hybris. Est-ce que c'est ça le cycle de la vie ? Naître, mourir, renaître immortel, puis permettre à quelque chose d'autre de naître à son tour ? Dieu seul le sait.
Et ben, quelle chronique. Je tiens à dire quelque chose en première.
Oui.
Si Elon était un vrai gourmet,
ouais,
il n'irait pas en Bretagne pour déguster des huîtres.
Oh là là, tu relances le débat.
Car j'ai cherché il y a quelques temps, mais visiblement, les meilleures huîtres du monde proviennent d'Irlande. Voilà.
C'est vrai ?
C'est étonnant. Mais si vous cherchez bien sur internet, vous tomberez là-dessus. Donc je verrai un mail à Elon.
Il y a des huîtres en Irlande, c'est vrai cette histoire ?
Eh ben, gros producteur d'huîtres, mais surtout gros producteur d'huîtres de qualité, apparemment.
Très bien.
Des meilleures huîtres du monde, même. Mais moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de Elon à Cancale, vraiment.
Bah ouais, non, mais vous savez, moi, je joue sur le communautarisme des auditeurs. Hein. L'épisode Bretagne a fait environ 50 millions d'écoutes, donc à un moment donné, on continue, quoi, tu vois. C'était soit la Bretagne, soit les Corses, quoi. Mais bon, les Corses, on a peur d'eux, donc bon.
C'est vrai que c'est la deuxième chronique qui met en scène la Bretagne après une de Florian.
Ouais. Ouais, bah c'est ce qui marche, hein. C'est Bienvenue chez les Ch'tis, film qui a pété le box-office. Hein, donc
Non mais ça y est, surtout on se YouTubeise, maintenant on fait des chroniques pour toucher des publics spécifiques et grossir notre auditorat, tout ça quoi.
Ah bah oui, on a les complotistes et les bretons.
Elon, il avait déjà été au cœur d'une de tes chroniques, Thomas,
oui,
non?
Oui, bah, passion ouais. Elon, hein, à un moment donné, passion Elon. Bah, déjà, disons que le thème qu'on nous avait donné la dernière fois, c'était Elon Musk aussi. Donc forcément, j'avais mis Elon au cœur de la chronique.
Ah, c'est vrai que c'était Elon Musk le thème, j'avais oublié.
Et là, non, ça me faisait juste plaisir. C'était pour le plaisir, hein, tout simplement, de côtoyer une nouvelle fois Elon et de faire ces quelques pas avec lui en Bretagne avec une poupée gonflable, quoi, avec une poupée.
Est-ce que tu veux dire que c'était toi, Ada, au final?
Alors, Elon Musk ne m'a jamais baisé. Si c'est la question. Je l'ai même jamais rencontré, hein, je ne crois pas. Non, je ne pense pas.
Pour l'instant.
Ah, écoute, je suis pas chaud. Hein. Je suis pas chaud quand même. Je suis pas chaud.
Lui, en tout cas, même avec une poupée, il est monogame siliconé, quoi. Enfin, il reste fidèle, quoi.
Oui,
il
ne
veut pas
oui,
changer.
Bah, c'est un grand romantique quand même. En tout cas, je le décris comme ça, moi.
Bah justement, moi, c'est ce que je m'étais noté. Excuse-moi, Florian, je te laisse parler après, mais je me suis dit...
Ah non, vas-y.
Il a fallu qu'il devienne immortel pour qu'il s'intéresse justement au romantisme, pour qu'il s'intéresse à la famille, parce que ça l'obsède pas mal dans ta chronique. Et alors que, visiblement, quand même, dans la réalité, c'est plutôt un mec qui est... alors, il a une famille, il a plein d'enfants et tout machin, mais il est quand même plutôt centré sur lui et c'est compliqué de susciter son intérêt autre que par lui-même. Même oui, si dans ta chronique, il finit par redevenir fan de lui-même.
Parce que la famille, Elon Musk, le nôtre, le vrai, il a quand même 6 gosses, je crois.
Oui, bien sûr.
Si ce n'est plus.
Ouais.
Si ce n'est plus, bah on ne sait pas, vu que, voilà. Oui, non, mais bien sûr, c'est romancé, en effet. Mais quand même, je l'ai voulu crédible, dans le sens où je voulais faire ce côté un peu délirant, qui part dans tous les sens, tu voyez, comme on aime bien faire ça parfois. Et je trouve qu'avec un personnage comme Elon Musk, ça en devient crédible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ça fait pas clair. N'importe quoi, tu vois, c'est parce que Elon Musk, enfin vous avez vu comment il appelait son fils?
Ouais.
je pourrais même plus vous le dire, le mec il s'appelle XPQ424, ou je sais pas, son fils c'est un mot de passe quoi.
C'est Android. C'est clair. Oui, non, mais d'ailleurs j'avais une réflexion par rapport à ça, c'est que tous ces gens donc ils se rendent immortels, tu vois, et déjà il y a aucun français dans les immortels et j'étais un peu déçu, mais ça c'est pas grave, passons. Ces gens, ils ne pensent pas à emmener leurs gamins ou à faire profiter leurs gamins en fait de l'immortalité. C'est... Alors que chacun, si on les prend tous ensemble, à mon avis, il doit y avoir un sacré paquet de gamins en tout cas.
Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, non, mais alors, c'était en vrai, c'était pour par facilité. Je trouvais ça plus marrant qu'il n'y ait plus que 11 personnes connues plutôt que chacun vienne avec sa famille et sa femme. Déjà, j'ai mis Grimes, hein, la femme d'Elon Musk. Je lui ai déjà fait une fleur. Hein. Après, elle est partie avec Sergey Brin, mais bon, j'ai fait ma tambouille interne après. Ouais, non, mais après, bien sûr, je pense que chacun ferait ça. Mais vous savez, Elon Musk, il a déclaré cette semaine, juste après que j'ai écrit ma chronique, il a déclaré que. Il n'était pas intéressé par l'immortalité, donc si je devais vraiment être à fond dans la vérité, je ne serais pas podcasteur.
Je ne serais pas auteur.
Je ne serais pas podcasteur, je serais journaliste.
Mais parce qu'il n'a pas besoin, il n'a pas dû attendre d'être immortel pour se prendre pour une sorte de dieu. Dans ta chronique, c'est ce qu'il finit par faire. Ouais. Dans la vérité, il l'est déjà un peu comme ça, quoi. Enfin, il se sent déjà un peu comme ça.
Carrément. Je pense que là, il veut aller sur Mars à tout prix et tout. Là, je rajoute une brique, pas des moindres, mais qui dit qu'il crée la vie sur Mars. Franchement, connaissant l'astico, c'est pas déconnant, si je puis me permettre. Enfin, tu vois, une fois qu'il sera installé, admettons, demain il colonise Mars, il est là-bas depuis 20 ans, c'est pas déconnant qu'il commence à modifier des espèces terriennes dans leur génome pour que ça puisse survivre là-bas, tu vois.
Ouais, ah oui, ça d'accord. Mais parce que sinon, créer une autre forme de vie ou quoi, c'est pas dans ses projets. Parce que toutes ces entreprises et tous ces projets sont plus ou moins liés. Et ça, ça fait pas trop partie du plan. Alors, quoi.
Je t'ai connu plus complotiste que ça quand même, Vic. Hein. Parce que franchement, Neuralink, on sait pas trop, tu vois. Bon,
je suis pas du tout complotiste. Hein.
Mais les oiseaux, ils sont immortels.
mais j'ai des théories, c'est tout. Et toi, d'ailleurs, ta théorie de la chronique, pour revenir à la tienne, si je comprends bien, c'est que finalement, en tout cas, je serais d'accord avec toi, il paraît, c'est ce qui se dit, mais que c'est finalement que l'immortalité, c'est un peu nul.
Ah ouais, mais après là, bah, là pour le coup, je vais pas dire que ma chronique est géniale pour ça. Elle l'est pour d'autres raisons évidemment, mais elle l'est pas pour ça parce que c'est vraiment le coup classique, le vampire du 19e siècle qui devient triste avec l'immortalité. Ouais, c'est ça, c'est le coup classique quoi, vous voyez. Et du coup, voilà, j'ai réutilisé cette idée-là qu'on a un peu vu souvent, mais qui est toujours intéressante en effet.
Mais qui doit être pas si... Enfin, c'est compliqué à demander à un type, mais ouais, quelqu'un qui aurait pu le vivre, mais ça n'est peut-être pas si faux, quoi.
Ah non, je pense que c'est vrai. Même t'as qu'à voir un vieillard, comme il a moins le goût de la vie, je trouve, souvent, les vieillards. Je veux dire, et je pense que c'est un vrai truc. En effet, à la fin, la vie, elle lasse un peu. On dit que la vieillesse, c'est un naufrage, mais c'est pas ça. C'est juste qu'on a mangé une part de gâteau de trop à la fin, quoi. Si je puis faire une métaphore pâtissière.
À voir si tu vieillis pas, mais ça, bon, faudrait demander aux oiseaux.
Oui.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça le truc.
Oiseaux,
c'est
en effet. Il recommence. Oh là 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 là. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup, tu sais. Si seulement c'était pas le dernier épisode, j'aurais fait pour l'épisode suivant une chronique avec des oiseaux immortels dedans. Parce que j'aime bien ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer un lore un peu. Un lore qui n'a aucun sens,
vrai,
mais quand
vrai.
Même un lore, et ça, on aime bien.
On lui retrouvera plus tard, t'inquiète.
On lui retrouvera plus tard. Bah toi, on peut compter sur toi. Tu vas nous trouver une espèce de théorie fumeuse, comme quoi on est dans une terre creuse ou un truc comme ça. Et Florian, il va péter la terre creuse juste derrière. Moi, je vais aller partir en pleurant.
J'ai déjà fait la terre creuse.
Ouais, oui, ouais. C'est vrai. On a tout fait. C'est bon. C'est bon. Heureusement que c'est le dernier épisode et qu'on arrête. Hein.
On est les Simpsons, en fait. Ça y est, quoi.
On est les Simpsons.
Il faudrait qu'on fasse des crossovers maintenant.
Bon, on n'en est pas loin.
C'est génial.
On n'en est pas loin.
Oui, mais avec d'autres podcasts.
Tu vas voir quand on va avoir des bastons de dum-dum sur des oiseaux immortels, ça va être ah oui, avec d'autres podcasts. Excuse-moi, je t'écoute plus Vic. Il est temps qu'on prenne des vacances.
Ouais, tu l'écoutes mais à rebours.
Ouais,
c'est ça qui est génial.
Ouais, c'est terrible. Mais parce qu'en fait la formation elle processe bizarrement chez moi. C'est très bizarre. Excusez-moi, je voudrais vous avez plus rien à dire, j'espère.
J'ai une dernière chose, moi. Mais après,
Soit bref.
Ok, je suis bref. Je voudrais revenir sur les huîtres.
Oui.
Petit point, j'ai découvert il y a quelques jours des huîtres qui s'appelaient, en tout cas chez le poissonnier, les huîtres spéciales. Alors, je sais pas ce que c'est.
c'est des huîtres
spéciales. Mais toi, tu parles d'huîtres plates, comme quoi. Et alors, je voudrais juste vous dire que j'ai goûté aussi les huîtres plates. Les huîtres spéciales, quoi qu'elles soient, je ne sais pas ce qu'elles sont, mais elles sont très très bonnes. Voilà. Je les conseille à tous les auditeurs.
Alors, est-ce qu'elles ne sont pas meilleures parce que c'est écrit spécial dessus aussi, finalement?
Bah, écoute, c'est ce que je pensais en les achetant. Il me dit, des normales ou des spéciales? J'ai dit, des huîtres spéciales sans trop savoir. Et je ne l'ai pas dit aux invités. Et ils ont tous dit... Elles sont spéciales,
ces huîtres.
Ils ont vu ton sourire et toi t'as dit bah oui, c'est des huîtres spéciales. Pro tips pour les auditeurs, si vous voulez rendre quelque chose de délicieux dans la vie, si vous voulez retrouver le goût à la vie, faites de votre vie quelque chose de spécial.
Et on revient au podcast bien-être.
C'est ça.
Et surtout c'est à double tranchant quoi, parce que genre oui elles sont spéciales ces huîtres, ça dit pas elles sont bonnes, tu vois. Ça veut vraiment pas dire la même chose.
C'est vrai que ça peut
si tes invités
chose.
Te disent elles sont spéciales quand même.
C'est clair.
C'est vraiment pas pareil.
Quand tu fais écouter le podcast à ta mère, ça t'a plu? Ah c'est spécial.
Ah, ils sont gentils tes amis, mais
ton copain Florian il est sympa mais il est spécial, non?
Je comprends pourquoi vous avez pas ouvert une chaîne YouTube.
Bien, si vous avez fini de dire du méchanceté les uns des autres, on peut passer au Club Culture parce qu'on est en train de faire l'épisode le plus long de l'histoire d'Alain et les Garçons. J'en suis pas peu fier.
L'épisode le plus spécial d'Alain et les Garçons.
L'épisode le plus spécial, ça pourrait faire un bon nom d'épisode, Florian, bravo. Allez, on se fait une petite virgule comme on les aime et on se fait d'un Club Culture. Bon, alors.
Bon, qui commence?
On est content ou pas?
On est content de quoi?
On est déçu.
De quoi?
Bah, on voulait des vampires, nous.
Ah, mais non, pas du tout. Moi, j'aime bien, moi, ce qu'on a fait, là, de cet épisode.
Et Robert Pattinson, il est où? Attendez, en fait, je suis en train de meubler parce que j'ai perdu mes recommandations. Bah, vous savez quoi? Quelqu'un commence. Allez-y, si vous êtes si malin.
Eh ben, vas-y, Florian.
Attends, Julien, juste avant les recommandations, je voudrais faire une micro-recommandation avant la recommandation.
Ah, si vous me permettez. Il nous dit, allez-y, vas-y. Ah, bah non, allez-y pas, j'y vais.
Non, mais j'ai changé d'avis parce que j'ai perdu mes notes. Bon Dieu, montée divine.
Bon Dieu.
Non, je voudrais juste faire un petit clin d'œil et une petite recommandation parce qu'on en a déjà parlé sur Twitter. On les a retweetés et tout, mais on n'a jamais eu l'occasion d'en parler en vrai dans le podcast. Donc, ça sera chose faite. Je vais juste parler une minute chrono. Ne te moque pas de moi, toi. Une minute chrono de Mana et Plasma, qui est un podcast SF qui s'est lancé. Il s'est pas jeté, il s'est juste lancé, ce qui est déjà bien. Il y a genre deux mois et demi, à un moment donné où sortira ce podcast. Et c'est plein de gens formidables qui se sont réunis donc, pour faire ce podcast-là sur l'impulsion de Kurt de la chaîne YouTube de qualité Suck My Caddick, qui avait fait un appel sur Twitter pour motiver un peu les gens du milieu SF, SFFF même, pour faire un podcast. Et il y a plein de gens, ils sont une chier, hein. Il y a du YouTuber, il y a du musicien, musicien, il y a du blogueur, il y a un autre podcasteur aussi. Il y a vraiment du monde. Je vais pas vous faire toute la liste. Pardon.
Il y a un auteur aussi.
Il y a des auteurs aussi dedans, t'as raison, il y en a même plusieurs, il y en a deux ou trois, enfin ils sont vraiment très nombreux, c'est un peu protéiforme leur truc.
Et c'est un groupe de K-pop donc, en
voilà,
fait.
Allez écouter.
Pardon. C'est un groupe de K-pop en fait quoi.
C'est un groupe de K-pop, ça leur fera plaisir je pense.
Ça leur fera plaisir. C'est un boys band de la science-fiction quoi.
Ouais, un boys band intergenre en plus, qu'il y a même des femmes dedans. Donc c'est incroyable. Alors que niveau femme, on peut pas vraiment se targuer d'être.
Il faut qu'on leur vole leurs femmes.
c'est pas le village d'à côté, c'est un autre podcast. On va aller chez Mana et Placement, on va leur voler leurs femmes, on va les ramener au village. On va les ramener au ranch.
Allez. Je tiens quand même à mettre un petit bémol sur Mana et Plasma. Je dis bien Mana et Plasma, c'est que si vous écoutez leurs épisodes, n'importe quel épisode, le seul problème, c'est que quand on sort de leur épisode, on a une liste de livres à lire, de films à regarder, de séries à regarder, qui est énorme. Et alors, je leur en veux beaucoup parce qu'ils m'ont fait dépenser. Heureusement que le confinement est arrivé et que les librairies ont fermé parce qu'ils ont une culture SFFF que, à mon avis, nos chroniques. Ils font les nazes, ça c'est déjà fait. 1963, non, laisse tomber quoi. Ils ont,
mais je crois qu'ils étaient d'ailleurs en partenariat avec le confinement. C'était prévu pour le lancement du podcast pour qu'ils puissent, pour que les auditeurs
sponsorisé puissent par le confinement,
absolument sponsorisé par le Covid. C'est le NordVPN du podcast, le Covid,
c'est ça.
Et ouais, donc voilà, allez écouter. C'est pas du tout comme nous, c'est de la SF, mais c'est pas du tout comme nous parce qu'ils vont plutôt faire des débats de fond. Il n'y a pas que de la SF, il y a aussi de la fantasy et même du fantastique un petit peu. Voilà, allez écouter. Et pour la petite anecdote, parce qu'on prend le temps, c'est le dernier épisode. Quand Kurt a lancé le projet, j'ai dit nous on a déjà le podcast, donc on va pas venir avec vous dans le podcast, mais on peut filer un coup de main si vous voulez. Entre temps, donc ça s'est un peu déroulé. Moi, je suis parti en vacances en Chine. Bon, j'ai plus internet ni rien. Je rentre, je dis vous en avez tout. Invitez-moi sur le Discord, je vais vous filer un coup de main si besoin. Je suis arrivé sur le Discord. J'ai passé 15 minutes dessus et j'ai vu comment les mecs et les filles étaient organisés, doués, carrés. Et je me suis dit, ok, je suis reparti, j'ai pas laissé de message. Je dis, les mecs, c'est eux qui vont nous donner des conseils. En vrai, mais évidemment, les mecs, ils ont tous des projets derrière et tout, ils savent déjà faire. Nous, on est des amateurs. Allez écouter Mana et Plasma.
Je me rappelle de ce jour-là où sur le Slack, sans doute dans un de nos canaux discussions et floudes, tu nous as dit, putain, on est vraiment des merdes.
Les gars, je me cache, le village d'à côté, ils ont des femmes et ils sont tous organisés. bref, donc voilà, ça s'appelle Mana et Plasma. On vous encourage d'écouter. C'est tous les mois, mais en fait toutes les deux semaines, parce qu'ils font des mini capsules entre chaque épisode. Et c'est que des gens bien. Et donc voilà. Mais écoutez, continuez à nous écouter quand même. Hein, faut pas exagérer. Et écoutez,
c'est
aussi.
C'est une belle recommandation.
C'est que c'est plus que de la SF.
C'est plus que de la SF.
Écoutez aussi 2 heures de perdu, parce qu'il y a Vic qui va y aller bientôt. Et puis voilà. Hein, on est content. Du coup, j'ai perdu mes rocos définitivement. Je pense que je les ai supprimés par mégarde, donc je vais improviser. Mais donc allez-y, d'accord. Qui veut commencer?
Alors vas-y, t'as qu'à commencer si t'improvises.
Moi?
Allez.
Oh là, ça va être dur. En fait, je voulais en faire deux, mais je vais peut-être en faire qu'une. Je vais en faire qu'une du coup. Je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Fou the Flower Horn. Ça vous semble correct?
The quoi?
J'ai pas compris.
The Flower Horn s'appelle, c'est une chaîne YouTube que je vais vous recommander.
C'est okay. Juste Flower Horn ou avant tu
non,
dis
fou, F-O-O, The Flower Horn.
Ah,
Flower
okay.
Horn.
Okay.
D'accord, okay. Non,
c'est,
je connais
c'est
pas.
Une chaîne qui caracole à 1,38 million d'abonnés.
Ah, c'est pas mal quand même.
C'est une chaîne qui va particulièrement toucher les amateurs de jardinage et de limaces, parce que c'est une chaîne d'aquariophilie en fait. C'est la chaîne qui a rythmé mon confinement. C'est un truc de ouf, c'est ma tendre et chère qui me l'a fait découvrir.
Mais tu nous l'as déjà partagé en fait.
Je vous l'ai partagé sur un entre nous, ok, ça n'a pas été diffusé, Florian.
Ah d'accord. Ouais,
donc c'est pour ça que je vous en reparle un peu plus officiellement. C'est un. D'ailleurs, je pensais que je vous avais pas parlé. Je pensais que j'étais pas jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave. Je vous raconte quand même parce que de toute façon, au point où on en est.
Juste je regarde une vidéo en direct. Hein.
Juste pour expliquer, c'est donc il y a c'est quoi? C'est un mec. Quelque part, on sait pas qui c'est, il donne ni son prénom, ni sa nationalité, ni rien, on voit jamais, on voit juste ses bras. Et il a des aquariums chez lui, mais il a genre plein d'aquariums et il fait des expériences. Il met des petites plantes dedans, il les fait pousser, il met des patates. 6 mois après, ça fait un arbre patate au-dessus. Il y a différents types de poissons, il met des trucs sous l'eau, dans l'eau, il met différents types de pierres, il fait des trucs. Il est passionné, il fait ça, mais d'une manière superbe. Il nous fout du sati par-dessus, ça nous relaxe de ouf. Pendant le confinement, entre deux crises d'angoisse, je mettais ça, c'était vraiment mortel. Je recommande à tous les les gens zinzins qui dorment mal la nuit comme moi. C'est vraiment top. Et tu lis les commentaires. T'as les gens, ils mettent des trucs genre... Putain mec, je voudrais être un poisson, tu t'occupes tellement bien de tes poissons. Ils mettent des trucs de ouf, tu le vois travailler, faire ses petits trucs au fur et à mesure. Il y a une chaîne où il y a son flower horn, en fait Fuzz the Flower Horn, c'est un de ses poissons, et il est là et il a une grosse boule sur la tête et il est tout malade, sa boule elle était toute verte, toute pas bien, et il était inquiet, tout pas bien, il mettait des petits émojis tristes, et finalement il va mieux après, ça va mieux, tu le suis au fil des mois. C'est vraiment super, c'est vraiment de la grosse qualité.
Attention,
et c'est encore plus ouf.
Tu spoil sur la vie
non,
de ce
mais
poisson.
Vous pouvez y aller, c'est il fait même pousser des fraisiers dans ces aquariums, quoi. C'est un truc de ouf. Et je voulais vous dire un truc, parce que moi, pendant le confinement, j'ai allié le confinement à mes maladies mentales, et avec ma copine, on a mené l'enquête, et je vais révéler ce soir, dans Alien et les garçons, qui est la personne qui gère Fuzz the Flower Horn.
Je
vais pas révéler qui c'est complètement, mais j'ai eu des infos. Moi, j'étais certain que ce mec était asiatique. Ouais. Ou allemand. Parce que je dis, il faut être un taré, et il y a que les Asiatiques et les Allemands qui sont tarés à ce point pour s'occuper. Enfin, c'est un nerd de l'aquariophilie, quoi. Faut comprendre le truc. En allant voir les gars, vous vous rendrez compte. Il est là.
Non, mais là, je suis dessus en direct. Là, je comprends complètement pourquoi tu surkiffes à ce point-là.
Ah, c'est trop bien.
C'est extrêmement détente, en fait, quoi.
Ah, ça fait vraiment du bien. Et je suis très sérieux. Hein. Ça sonne comme une blague, mais ça me détend vraiment. Et ce mec-là, en fait, je me dis, putain, il est forcément asiatique. Et certaines vidéos, on voit un peu ses avant-bras. Je m'y connais en asiatique, ma copine est chinoise. Il a pas de poils sur les avant-bras. Je me dis, tiens, lui, il a pas de poils sur les avant-bras,
cette
il est
phrase,
asiatique.
Quoi.
Ah oui, bah oui, je m'y connais. J'en ai une à la maison.
Je m'y connais en asiatique, ma copine est chinoise.
Non, mais c'est con, j'ai repéré qu'il n'ait pas de poils sur les avant-bras. Et qui n'a pas de poils sur les avant-bras si ce n'est les asiatiques? Je vous le dis en mille. Bon, et donc du coup, j'ai commencé à mener les recherches et tout. On cherchait partout, on ne savait pas. Il est très poli dans les messages qu'il met, il dit thank you very much. Il donne beaucoup d'amour à sa communauté. Et finalement, un jour, on voit un carton dans le fond avec un petit QR code dessus. On a scanné le QR code en mettant le truc sur la télé parce que pour que ça soit assez gros, parce que sur l'écran c'était trop petit, et ça nous a amené directement sur un site de livraison de café coréen. Il est coréen, je vous le révèle en exclusivité. Voilà. Ma recommandation, c'est Fuzz the Flower Horn.
Je suis un peu déçu, du coup, je m'attendais à ce que le mec il soit d'une nationale, que tu te sois complètement foiré et que le mec groenlandais, tu vois.
Non, il avait pas de poils au bras, les Groenlandais ont des bras très poilus.
Mais en fait, peu importe l'issue de cette enquête, tout aurait été décevant, en fait.
C'est moi, je suis désolé. J'aurais pu vous dire, Fuzz the Flower Horn, c'est Banksy.
Non, mais oui, si tu nous avais dit, genre, c'est une personne en particulier, on l'a cherché, on l'a retrouvé, on lui a pété la gueule, tu vois, pourquoi pas. mais là, tu nous dis juste sa nationalité, tu nous dis, il est asiatique, tu nous aurais dit, il est néo-zélandais, on aurait fait. Ah, ok.
Ouais, mais parce que vous avez raison, mais pour les auditeurs qui connaissent, je pense que t'as pas beaucoup, mais s'ils connaissent, ça va vraiment leur faire quelque chose parce que tu t'attaches à ce gars-là. À travers ses messages et ses bras,
sans poils. Du coup, moi, j'ai pas sa chaîne YouTube encore sous les yeux, mais est-ce que ça tiendrait un peu ce qu'il crée de l'aquascaping, ces gars qui font des paysages qui ressemblent à des paysages terriens, mais du coup, sous l'eau?
Non,
c'est pas exactement
ça.
Mais c'est plutôt qu'en fait qu'il fait des aquariums mais from scratch, c'est-à-dire que quand il va faire pousser une plante dedans, il va vraiment la faire pousser depuis le début. Il va tenter des expériences en mettant des petits trucs d'alimentation, voir si les poissons ils mangent ou pas. Il y a des petites crevettes qui vont apparaître. Il est très méticuleux.
C'est ça là, justement, je suis en train de regarder une vidéo où en plus de la végétation, il est en train de faire pousser des crevettes.
Ouais, il fait des crevettes. Je sais pas si le terme pousser des crevettes est vraiment.
Bah pas
long,
parce qu'en fait. En vrai, il les a plantés dans le sol, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vois les têtes qui ressortent. Et bien, en fait, elles poussent les crevettes, quoi.
Moi, je voudrais
c'est n'importe quoi.
Pour conclure, donc allez jeter un coup d'œil. Pour conclure, je voudrais juste faire un pari. Vic va aller voir ses quelques vidéos de Fuzz the Flower Horn. Et je parie qu'à la rentrée en septembre, quand on revient, Vic, il a un aquarium chez lui. C'est mon défi. Voilà, à vous les studios.
Superbe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Vic va s'acheter un aquarium. Surtout qu'il a, il est à deux doigts, il a déjà des oiseaux.
Ah, mais vous rigolez.
Il discute le matin.
Mais il y a une marque qui est en prévision, là.
Eh ben voilà.
Donc je pourrais faire ça dans la mare.
Ah, il y a une mare.
Mais allez voir les trucs aussi d'aquascaping, vous allez voir, c'est ouf, il y a des mecs qui font des trucs genre des paysages d'avatar et tout. Enfin, le monde de l'aquariophilie, en plus de la chaîne YouTube du gars, là, ça peut être passionnant aussi. Mais moins que les oiseaux.
Évidemment. Parce que les poissons ne sont pas immortels, ça va de soi.
Faut voir.
Ou des extraterrestres, ou je ne sais plus. Bon. Vic, justement, toi qui as la parole, tu veux peut-être continuer et nous faire ta recommandation?
Eh ben, très bien. Moi, ma recommandation, elle s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'a été ma chronique, parce qu'il faut rester toujours cohérent avec soi-même. C'est un jeu de société qui s'appelle Wingspan. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Ah, c'est le jeu d'oiseau, justement.
Rien du tout.
C'est un effectivement jeu un jeu d'oiseau.
T'es monomaniaque, mon gars.
Alors, non, je suis cohérent avec moi-même. Wingspan, donc c'est l'envergure en français. C'est effectivement un jeu qui a fait pas mal de bruit aux États-Unis, même dans le monde entier, avec plein de ruptures de stock. C'est un jeu de Stonemaier Games que vous connaissez tous les deux, parce qu'on se fait des parties de Sight, autre de leurs jeux assez connus.
Mm-hmm. Ouais, ils font une recommandation d'Alain et les garçons. Bien.
Ouais, qui était déjà une recommandation d'Alain et les garçons, exactement. Donc là, Wingspan, c'est un jeu qui effectivement parle d'oiseaux, d'ornithologie, et ça propose en fait de gérer des oiseaux. Alors, pour l'instant, des oiseaux, enfin, dans le jeu de base, des oiseaux d'Amérique du Nord. Mais attention, il y a une extension qui est parue il y a peu avec, accrochez-vous là où vous pouvez, des oiseaux d'Europe, donc les oiseaux de nos forêts et jardins, wow. Pour retrouver nos propres oiseaux. Donc voilà. Et donc c'est un jeu, comme il se décrit lui-même, comme un jeu compétitif d'optimisation et de collection d'oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Donc ça peut se jouer en solo, tout comme Sight.
C'est
un
rêve.
Non mais tout comme Sight, ils ont fait un système Automa, qui est un système qui a été développé par Stonemaier Games, qui permet en fait, qui est créé par une autre équipe que l'équipe du jeu, et qui permet en fait de créer une espèce d'automate contre lequel tu joues avec tout un système de règles pour jouer tout seul. C'est vraiment super bien fait, tout comme dans Sight, on en avait déjà parlé. Et donc ouais. Là c'est de l'optimisation d'oiseaux, donc c'est pas une aventure épique, intense, c'est juste l'idée, ça va juste être de créer une collection d'oiseaux. Donc le matériel il est magnifique, donc je vous laisserai aller voir sur quelque chose d'un peu plus visuel qu'un podcast. Mais sur le matériel, tout le monde s'accorde à dire qu'il est vraiment très beau. T'as énormément de cartes, 170 cartes qui sont toutes différentes, avec à chaque fois des races d'oiseaux différentes. Les illustrations sont au top, et sur chaque oiseau, en fait, ça te donne des petites caractéristiques différentes, en fait, pour jouer. Donc c'est assez poussé à ce niveau-là, c'est assez scientifique. Très rapidement, les règles, mais ça, encore une fois, je vous renverrai, je vais pas rentrer dans les règles, parce que je vous renverrai si ça vous intéresse, sur des vidéos YouTube, il y a des choses qui expliquent, il y a plein de vidéos qui expliquent les règles, vraiment pas mal. Je vous recommande celle de la chaîne YouTube Etu Game, qui est une chaîne canadienne.
Etu Game.
Et Etu, Etu comme Etu intelligent ou Etu bête.
Ah ok.
Voilà. Etu Game, c'est une chaîne canadienne qui fait des critiques et des actual plays de jeux, que ce soit des jeux de société ou des jeux de rôle. Et ils sont très drôles, et ils expliquent très bien. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Wingspan d'Etu Game. Et donc en fait les règles, encore une fois rapidement, ça va être, on choisit un petit peu comme dans Sight, une action à son tour. Donc on a le choix entre plusieurs actions possibles. On a un plateau devant nous, on a une action où on peut jouer une carte oiseau qu'on a, on a une autre action où on peut piocher une carte oiseau, on a une action où on leur fait pondre des œufs, on a une action, enfin des actions qui sont comme ça différentes. Et l'idée de ça, ça va être de se créer cette collection d'oiseaux, d'œufs, de gérer un peu leur nourriture. On est sur des jeux d'optimisation. Et en fait, plus tu avances, plus tu vas développer tes lignes d'oiseaux. Les lignes, elles sont en fonction de leurs habitats. Et en fait, plus tu avances dans ces lignes, et plus en fait tout devient complexe, et l'idée du jeu c'est de comboter, en fait de comboter les différents effets
en effet il y a un côté Sight quand tu le racontes comme ça.
Ouais, il y a vraiment un côté Sight, mais tout ça contrairement à Sight et contrairement à 90% des jeux, en fait c'est vrai, c'est un jeu qui est il est difficile à décrire, mais je dirais un jeu d'optimisation, comme on disait, d'écosystème doux.
Ouais.
c'est doux en fait, et c'est ça qui a fait. Vas-y.
Tu dis qu'il est difficile. Je te coupe pour faire une blague, c'est vraiment honteux, mais en même temps, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice. Tu dis qu'il est difficile à décrire, et en effet, c'est un objet volant non identifié. Mais parce que pour de vrai, je suis désolé pour cette vanne. Pour de vrai, moi, je l'ai déjà vu en boutique, et tu vois que lui, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi.
Ouais,
et en plus, les critiques sont trop bonnes, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas d'argent. C'est normalement, c'est les jeux, c'est toujours la guerre, le capitalisme, machin. Et là, on te propose de occupé d'oiseaux et tout. Ma tendre et chère, vous voulez qu'on l'achète?
Mais...
c'est pas un jeu de garçon, ça. Je lui dis non, du coup.
mais oui, t'as raison. Enfin, visuellement, en fait, il impacte. Il est vraiment super impactant. Il y a une grosse hype aussi, parce que des journaux, genre le New York Times, le Guardian, et dans le monde entier, en fait, ils ont consacré des articles qui sont normalement des journaux un peu de mass média qui s'intéressent pas forcément au jeu. Du coup, c'est ça aussi qui a contribué à ça. C'est un peu entre le jeu familial et le jeu expert, et vraiment c'est super quali. Et du coup, pour conclure juste ça, parce que c'est pas le point le plus important, mais il faut quand même le noter, c'est un jeu qui est créé par une ornithologue amatrice qui s'appelle Elizabeth Hargrave. Un jeu qui est illustré par Bess Sebel, Anna Maria Martinez et Natalia Rora. Et si je précise leur nom, en fait, c'est juste pour mettre bien la lumière sur le fait que ce sont des femmes. Alors pas pour le fait que ce soit des femmes, mais parce que dans le cas présent, en fait, c'est assez rare pour être précisé.
Ouais, c'est vrai.
Je regardais un petit peu ça, du coup, sur des articles sur Internet, et je suis tombé sur des choses qui se disent typiquement, donc l'Asdor, par exemple, qui est gros festival, Florian, tu pourras en parler, qui a été créé en 1980, donc chaque année, il récompense pas mal de trucs, il a seulement récompensé deux femmes, dont une, enfin dont deux fois une et l'autre en collaboration avec un homme sur tout le palmarès depuis 1990. Un autre festival de jeux qui est le Spiel des Jahres, un festival de jeux allemand qui est encore plus important que l'Asdor et plus international.
C'est le plus gros.
L'allemand est très joueur, hein, contrairement aux apparences.
Ouais, voilà, l'allemand est plutôt joueur. 40 ans d'existence, plein de récompenses et sur ces 40 ans d'existence. 4 femmes récompensées, dont 3 sur les 4 ouais. Associées à des hommes. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un univers, tout ce qui est jeu, que ce soit du jeu vidéo de moins en moins, du jeu de société plutôt ludique, du jeu de rôle, c'est pas très féminin. On va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, il y a plein de choses sur Internet et c'est assez intéressant de comprendre pourquoi. C'est assez compliqué, pourtant il y a énormément de joueuses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Wingspan... c'est excellent, c'est top 1 du ranch en ce moment et pour cette année, et ça a été créé par 4 femmes et c'est ma recommandation.
Bravo Vic,
c'est beau.
On va aller leur piquer leurs femmes aussi. Si ça vous dit.
Et on va buter leurs oiseaux.
Clairement, on a compris où elles étaient maintenant. Elles sont chez Mana et Plasma et chez Wingspan, alors on va y aller. Hein.
C'est
cet
ça.
Été, on sait quoi faire, hein. Ça va nous occuper. Merci, c'était très intéressant. En effet, je suis content que tu nous en aies parlé parce que moi, en effet, ce jeu, je l'avais déjà vu. Ma copine m'en avait donc déjà parlé. Et du coup, ça fera l'occasion de. Tu sais, vos recommandations, à chaque fois, je me les fais. Hein. Par exemple, ta dernière reco, c'était 7e continent. Figurez-vous, j'ai acheté 7e continent avant-hier.
C'est vrai.
Ouais, sans rire, j'ai pété mon PEL et je l'ai acheté parce que je voilà, tout simplement. Et donc ouais, non, je vous obéis, vous avez vu. Et j'espère
t'as raison, faut que je fasse ça, faut que
alors Florian, justement, de ta reco, ça va être quoi aujourd'hui?
Alors Marocco, ça va être un petit jeu vidéo qui s'appelle Good Job. Est-ce que ça vous parle?
Good Job.
Good non. Job. Mais non, avec un point d'exclamation, c'est pour ça que je dis comme ça.
Good et puis dit comme ça, ça peut être un truc un peu sexuel.
Comment? Est-ce que c'est un party game?
C'est pas vraiment un party game en fait.
Non, je
vais t'expliquer. Alors, c'est un jeu qui a été développé par le studio Paladin Studio. Donc déjà le nom il dégomme, je trouve.
Ah bah, ça claque.
Et, ouais, grave. Et en fait, il est sorti le 26 mars 2020, donc pile pour le confinement, tu vois. Pareil, coïncidence, ça, je ne sais pas. Et en fait, c'est une sorte de puzzle game qui t'apprend les vraies valeurs de la vie, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais vous décrire un petit peu le truc. C'est des petits bonhommes, façon un peu Human Fall Flat ou Gang Beast, je sais pas si vous voyez, les petits bonhommes en 3D très simples.
Qui subissent un peu de plein fouet la physique du jeu, qui peut être un peu extravagante, c'est ça?
Exactement. C'est pas en isométrique, mais Thomas a eu une meilleure description. Un point pour Thomas.
Merci.
C'est pas un quiz, mais quand même.
On fait un quiz.
Et bref, t'es un bonhomme et ton père, c'est le patron d'une multinationale méga richissime et qui fait plus ou moins des affaires un peu étranges. Notamment, il produit une sorte de glu rose à grande échelle de manière industrielle et il fait des expériences sur des lasers extrêmement destructeurs. Donc c'est un mec un peu chelou. Bref, tu incarnes son fils et on sous-entend que t'as vraiment genre zéro compétence, zéro talent. Mais c'est pas grave parce que t'as un papa qui est riche et du coup, il te pistonne sévèrement dans la compagnie. C'est en ça que les vraies valeurs de la vie se reflètent dans ce jeu. C'est magnifique.
Ça fait plaisir.
C'est ça. Mais bon, heureusement pour tout le monde, tu commences quand même vachement au bas de l'échelle. Et concrètement, au bas de l'échelle, tu commences en bas du bâtiment. Tu vois, en bas de la société, quoi. Et ton but, ça va être de gravir les échelons, de gravir les étages un à un. En commençant au premier étage et en finissant, je crois, il y a 8 étages ou 9 étages. Et en fait, comment tu grimpes d'un étage à l'autre? Eh ben, tu dois te rendre utile à la compagnie en donnant des coups de main, pièce par pièce, service par service. Par exemple, tu vas passer au service marketing, et ben, du coup, leurs imprimantes, elles sont cassées, ou bien ils ont pas de télé allumée, ou bien les mecs, ils sont en train de jouer au baby-foot. Donc, du coup, il faut les ramener dans la pièce, il faut rebrancher les prises, il faut, remplir la fontaine à eau, genre de trucs, tu vois.
C'est service généraux simulator, quoi.
Exactement. Sauf que, c'est service généraux simulator, mais comme c'est un peu à la Human Fall Flat ou Gang Beast, ton personnage, il est un petit peu désarticulé, tu vois, ce qui rend la tâche assez difficile, ne serait-ce que pour attraper le moindre objet. Si tu rajoutes à ça que tu peux attraper des extincteurs, les déclencher, tu peux tendre des câbles électriques pour projeter des fauteuils à roulettes et tu peux même conduire des transpalettes, Je peux dire que tu fais des dégâts dans toute l'entreprise, quoi. Et c'est là que c'est très marrant. Et c'est là que c'est là qu'on se marre, notamment en coop. Nous, on a joué à ça avec ma meuf en confinement. Et c'est du fun en bar. D'autant plus pour moi qui adorais jouer avec l'extincteur, là où ma meuf, elle était plus en train de passer le balai. Rien de miso, hein. C'est juste qu'elle, elle est plus cadrée. Et moi, faut pas me laisser avec un extincteur dans une pièce.
Je peux témoigner. À une époque, Florian et moi travaillons ensemble dans une même boîte. Et je me rappelle d'une soirée d'agence qui a mal tourné à coup d'extincteur partout partout sur les Macintosh du service informatique, hein. Mais bon,
c'est vrai. Et spoiler, on ne peut pas se projeter avec un extincteur sur une chaise à roulettes.
Non, on ne peut pas, en effet. C'est quelle plateforme, Florian?
C'est sur Switch. Je sais pas si c'est sur d'autres plateformes, certainement, mais en tout cas moi j'y ai joué sur Switch. C'est
ça doit être sur Steam, c'est toujours sur Steam.
Il y a moyen, c'est fun, c'est pas très long, c'est une dizaine d'heures tout au plus, c'est pas très cher, donc franchement faut sauter dessus, quoi.
C'est pas sur Steam, j'ai dit une connerie.
Tu l'as bien vendu.
Bravo, ça a l'air cool, en effet. Et est-ce qu'il y a des femmes qui ont développé le jeu?
Alors, aucune idée, je ne pense pas. Si, remarquez, à la fin, quand tu finis le jeu, parce que nous on l'a quand même torché du coup, en très peu de temps, et quand tu finis le jeu, tu reviens dans un niveau spécial où tu peux rencontrer virtuellement tous les développeurs, et il y a des prénoms de femmes. Ah, et non seulement tu peux les rencontrer, mais tu peux déglinguer leur bureau, et ça c'est quand même super cool aussi.
Je regarde la vidéo de présentation, ça a l'air très cool en tout cas, et tu l'as bien vendu. Et par contre, c'est bien en 3D isométrique quand même.
Non, parce que tu peux bouger l'angle de caméra et tout, mais vas-y, c'est pas grave, on va dire que t'as raison. Un point pour toi aussi. Ex-aequo, ouais. tout le monde est gagnant.
Je préfère les choses qui se finissent bien.
Mais oui, bah, ça se finit moins bien pour moi parce que je finis ex-aequo, mais bon, tant pis. Je suis pas rageux, hein, mais ça va.
Tout le monde a gagné, Thomas.
Tout le monde a gagné, mais ceux qui ont vraiment gagné, c'est les auditeurs parce qu'on les aime. On va se dire au revoir. Musique.
C'est vrai.
Et puis quel épisode, quelle longueur, c'est très long.
Ah ouais, alors je pense que là, on s'est pas foutu de votre gueule.
Quasiment un double épisode, non?
Vous en avez pour votre argent. Il y en a pour son argent.
C'est pas un double épisode, c'est un 1,5 épisode. Il y a 50% offert.
50% gratuit.
Ouais, bah non, c'est
super.
C'est super. Qu'est-ce qu'on se dit? Alors, on a plein de choses à se dire. Alors, on a à se dire qu'on se retrouve très bientôt à la rentrée, mais certainement avant. On a plein de choses à vous dire. Dans tous les cas, on n'est pas très loin. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On envoie des messages.
Mais d'ailleurs, justement, profitez-en pour bien vous inscrire sur nos réseaux sociaux, pour bien s'abonner, parce qu'on risque d'avoir pas mal d'informations à vous donner pendant l'été.
Oui, en effet, avec tous les petits projets qui arrivent. D'ailleurs, on va peut-être même sortir du contenu que sur les réseaux sociaux, on s'était dit.
C'est possible aussi. Ouais.
On va tenter un truc parmi toutes nos expériences qui vont venir, les 4-5 trucs qu'on va tenter cet été. Il y aura un truc que sur les réseaux sociaux qui sera du vrai contenu dans le dur et tout, audio et tout ça, donc ça va être sympa. Et puis voilà, et puis 5 étoiles sur iTunes pour nous filer un coup de main, en parler à votre grand-mère ou à vos amis, et puis ça fait toujours plaisir, quoi.
Des thèmes rigolos, des thèmes pas rigolos,
et puis voilà, et c'est tout ce qu'on veut, quoi.
Et si on revient pas avant l'été, bah passez un bon été. Exactement. Si on revient pas avant Noël, joyeux Noël.
Et puis si on revient pas avant Pâques,
Joyeuse Pâques.
Exactement, c'est tout ce qu'on voulait. Allez, on vous aime fort. Dites que vous les aimez aux auditeurs, on va pas les entendre depuis longtemps.
Les auditeurs.
Je parle plus français, mais c'est la fin. Allez, on vous aime tous. Vic, dis aussi.
Observez le ciel. Mais on vous aime.
Très bien. Allez, bisous, bisous tout le monde.
Ciao, bisous.
Allez.